Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 137e épisode de Tech Café. Nous sommes le mercredi 3 juillet 2019. C'est un jour avant la fête nationale américaine. D'ailleurs, c'est sans doute pour ça que Guillaume Vendée est encore absent. Hein. Il est en partie représenté les couleurs de la France pendant les célébrations. Parce que bon, Trump à Ivanka, hein, qui est de toutes les teufs, comme on l'a vu hein, sur une vidéo virale du G20 qui a été malicieusement publiée par la présidence française, alors bon, pourquoi pas nous? De toute façon, ce soir, je suis très heureux d'accueillir Nicolas du site mycrombo.fr et qui est aussi un confrère podcaster, puisqu'il anime le CKB Show. Comment vas-tu, Nicolas?
Eh bien écoute, ça va très bien, merci encore une fois pour l'invitation, et ben, j'espère que Guillaume s'amuse bien là-bas avec notre ami Donald et Mickey.
Absolument, est-ce que tu es chaud pour un épisode?
Ah, très chaud, j'ai vu le programme, ça va être chargé. Hein.
Oui, on est chaud, on est même trop chaud en ce moment, je dois dire. Mais bon, toute cette énergie, on va la mettre au service d'un podcast vif et affûté. Alors, vous savez quelles autres personnes de qualité sont affûtées aussi? Ben, c'est les patriotes. Parce que oui, vous pouvez contribuer à l'achat compulsif de canettes de Perrier, des canettes de Perrier glacées qui vont nous maintenir en vie en ce moment même. Ben, il faut aller sur le site de techcafé.fr ou même passer par les boutons soutenir des podcasts addicts ou les lecteurs de podcasts favoris que vous utilisez. Donc voilà, mettez-nous des appréciations aussi, des appréciations multistellaires sur iTunes ou Spotify, ou alors, plus simplement, hein, parlez de nous à vos amis en vantant combien ce podcast est rafraîchissant. Dans tous les cas, un énorme merci à vous tous, et ce soir, ben, écoute, de quoi va-t-on parler? Alors, menu, tu l'as dit, Nicolas, il y a pas mal de choses. Hein. Alors, évidemment, on ne pourra pas passer à côté d'une rubrique Apple, motivée par le départ de Johnny Ive. On poursuivra avec une section internationale, voilà, car la tech n'a pas de frontières. Enfin, si, en fait, justement, peut-être qu'elle va en avoir plus qu'avant, ou pas trop, peut-être pas, on ne sait pas, c'est compliqué. Donc, il faudra éclaircir tout ça, et on poursuivra avec une section aussi intelligence artificielle coquine, un petit peu, peut-être même un petit peu trop coquine. Et bon, enfin, une rubrique en bref, et bien entendu, de délicats bonus. Donc, c'est chargé, si tu es prêt, Nicolas.
Je suis prêt.
Et bien, alors, on peut commencer sans autre forme de procès. Donc, on débute cette section Apple avec, ma grande surprise, hein. Moi qui ne suis pas particulièrement avide de news Apple, il y a eu cette semaine une multitude d'articles concernant le départ de Johnny Ive, d'Apple. Donc moi, ça m'a surpris. Alors bon, ça m'a surpris qu'il parte déjà, voilà, comme beaucoup, je suppose, mais ça m'a aussi surpris qu'on en parle autant. J'avais pas mesuré en fait à quel point Johnny était un personnage important pour Apple, peut-être surtout pour la mythologie d'Apple, d'ailleurs on y reviendra. Alors même si je pense que la plupart de nos auditeurs savent déjà qui est Johnny Ive, on peut quand même revenir un petit peu sur le personnage. Hein, donc bon, Johnny Ive, bah, c'est le mec chauve et mal rasé qu'on voit souvent dans les keynotes ou dans les vidéos, ou dans ces vidéos qui sont super stylées, tu sais, où il fait des concours de superlatifs pour vendre des montres ou des téléphones.
Tout ça en aluminium.
Et bien entendu. Alors bon, sans rire, hein, Jonathan Ive a 52 ans, il est anglais de naissance, hein, mais il craint pas trop le Brexit parce que bah, il est aussi américain et en fait il vit à San Francisco depuis très longtemps. Il est designer parce qu'il a été embauché en 92 chez Apple. Bon, ça date pas d'hier. Hein. Et puis bon, à l'époque, le design n'était pas trop la priorité. Et puis bon, finalement, c'est en gros lors du retour de Steve Jobs que les équipes internes de design sont revalorisées, que Johnny gagne ses galons, en 98 d'ailleurs, quand il est nommé vice-président du design industriel. Donc Ive devient vice-président senior du design d'ailleurs en 2005. Et puis bon, globalement, Steve Jobs lui donne à peu près tous les pouvoirs. Personne n'est au-dessus de lui, quoi. Hein. Au passage, il est aussi anobli par la reine, on peut donc dire Sir Jonathan Ive. Donc Sir Ive, il est co-responsable du design de plein de trucs, hein, donc les Mac G3 et 4, l'iPod, le Mac Mini, l'iPhone, le MacBook Air, iOS 7 aussi, le redesign, l'Apple Watch, jusqu'au dernier MacBook Pro. Bon, il y a donc des produits majeurs et des produits un petit peu moins majeurs, hein, comme l'iPhone 5C par exemple, c'est lui aussi. Johnny, globalement, il est responsable du look d'Apple, donc il a eu une influence certaine sur les autres marques. Il suffit de regarder les Ultrabooks, hein, qui ressemblent quand même pas mal à un MacBook Air. Et je parle même pas des fabricants de téléphones qui ont dernièrement presque tous joué au jeu du notch. Donc bon, Johnny aime les designs minimalistes, hein, les formats purs, et l'aluminium comme tu l'as dit. Surtout l'aluminium. Bon, on peut pas contester son influence sur l'industrie au sens large, hein, les constructeurs étant désormais contraints en quelque sorte de s'intéresser au design. Et bon, toi qu'est-ce que t'en penses toi du design de Johnny Ive peut-être? Ton Chromebook est peut-être stylé. Alors, grâce à son influence, tu sais.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas que Apple qui perd son designer, hein. C'est Huawei, c'est Xiaomi, c'est Acer, c'est en fait tout le monde en fait perd son influence Johnny Ive. Moi, je trouve le design très épuré, très génial. Donc c'est dans l'air du temps. Il a créé une tendance qui fait qu'on a aujourd'hui ce qu'on a, les trucs très épurés. Après, C'est peut-être trop épuré pour certains. Il pourrait y avoir d'autres choses. On a peut-être, il a fait quelque chose. Il a sa patte. Hein. Il y a clairement, c'est un designer qui va compter, qui sera dans l'histoire du XXe siècle, du XXIe siècle, qui va compter. Mais des fois, c'était au détriment de l'usage du produit. Et moi, j'ai trouvé ça un peu dommage. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure sur certains produits loupés. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bien aussi que Apple passe peut-être à autre chose, je pense.
Oui, bah oui, alors bon, il faut dire que Ive a quitté Apple après plus de 20 ans de bons et loyaux services, mais il va quand même fonder sa propre boîte de design qui s'appelle Lofrom. Et évidemment, cette boîte va travailler pour Apple. Et je suis sûr qu'il y a des dizaines de millions de contrats avec Apple qui attendent que d'être signés. Donc c'est loin d'être la fin de la touche Ive chez Apple, je crois. Hein. Finalement, ce départ risque finalement encore d'accroître la fortune personnelle du monsieur. Bah, de quoi c'est trop s'inquiéter pour lui. Alors, si,
Ouais,
oui.
clairement, enfin, il s'en va, mais il s'en va pas, hein, donc il reste. Puis toutes les équipes qu'il a formées pendant 20 ans, beaucoup sont restées dans le service design d'Apple, donc son influence va encore perdurer quelques années, je
Oui, je
pense, hein.
pense aussi.
Donc on est sûr que Apple sera toujours très épuré, très, très looké, et puis tout le monde va s'en inspirer. Ouais, pour moi, il manquait un petit peu d'espace, il voulait peut-être créer autre chose. J'avais lu qu'il avait pensé l'Apple Watch comme un produit de luxe, et pas une extension à un iPhone, et a priori ça l'avait un peu frustré de ne pas pouvoir vendre ce produit comme un bijou. Donc peut-être qu'il va se lancer dans le marché du luxe, comme d'autres grands designers l'ont fait, pour s'associer à des grands groupes comme Rolex, puisqu'on parle de montres ou autre chose, pour essayer d'influer sur d'autres produits que uniquement le high-tech, et pourquoi pas des fourchettes en plastique, hein, parce que je suis allé dans un restaurant fast-food, j'ai vu qu'un certain autre designer faisait des fourchettes en plastique pour ce fast-food. Truc de fou.
Ouais, non mais tu as complètement raison, hein. C'est peut-être qu'on retrouvera du Johnny Ive un petit peu partout. Mais c'est vrai que si beaucoup d'encre électronique a coulé avec ce départ, c'est aussi parce qu'Apple, c'est à la fois des produits et une mythologie, quoi. À Apple, on avait des génies, on avait Steve Jobs, on avait aussi Wozniak au début d'ailleurs. Et puis bon, après on a eu Jonathan Ive qui a repris le flambeau du génie, on va dire, qui distingue la marque, quoi, hein, qui rend la marque singulière. Et Jonathan Ive a incarné le design et le bon goût de la marque. Et donc avec son départ, ben, on peut se demander, est-ce qu'Apple a encore des génies en stock? Bon, Tim Cook n'a pas trop cette image. C'est un CEO, c'est un CEO compétent, mais est-ce qu'il a l'aura de Jobs? Moi, j'ai pas l'impression. Je sais pas si.
Bah, c'est différent de Jobs, je pense. Tim Cook, c'est plus une dimension internationale, commerciale. Il a fait grandir la marque autrement de Steve Jobs. Steve Jobs, c'est plus, comme tu le dis, la mythologie. Il est revenu, il a redoré le flambeau le flambeau, ouais. Il a redoré l'image de Apple en revenant grâce à John Ive, hein, ils ont travaillé de pair les deux. Hein, sans l'un, l'autre n'aurait peut-être rien fait, et inversement. Mais est-ce que Jobs avait la prestance pour porter son produit au niveau international comme il l'est aujourd'hui. Moi je pense pas, mais je suis pas un expert de Apple, et Tim Cook va forcément continuer à faire ça, et puis des designers, il y en a beaucoup qui demandent aujourd'hui à être révélés, et peut-être que John Ive avait des limites aussi dans la conception de ce produit. Moi je suis sûr qu'on aura d'autres produits intéressants, et je pense que c'est bien pour Apple de changer un petit peu d'air, et d'aller dans une autre direction pour satisfaire d'autres personnes, qu'on passe à autre chose. Parce que moi ça fait 2, 3 ans, 4 ans que les iPhones, enfin j'en achèterai pas. Alors, j'en achète pas habituellement, mais pas pour une autre raison, mais j'en achèterai pas parce qu'ils se ressemblent tous maintenant. Donc, à part changer un petit filet, une couleur ou je sais pas quoi, en fait, c'est le même produit. Ce que j'aimais chez Apple, c'est qu'on passait d'un produit à un autre, on savait tout de suite quelle génération d'appareil on avait, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, j'aimerais bien revoir ça chez Apple avec le prochain designer.
Mais écoute, on verra, oui, ça pourrait être intéressant. C'est vrai, Tim Cook, on a plutôt l'image d'un CEO compétent, de mec qui fait le boulot, qui travaille pour la marque, qui a sa propre, tu vois, sa propre personnalité, qui est cool aussi, hein, mais qui a d'autres chevaux de bataille, on va dire. Et puis bon, c'est vrai qu'il ne fonctionne pas vraiment comme ça, tu vois. Il a déjà avoué qu'Apple était managé de manière très horizontale. C'est un comité apparemment qui décide des produits, et c'est pas un génie clairvoyant qui contrôle tout, quoi. Hein. Et d'ailleurs, comme le note The Verge, Ive sera remplacé par au minimum deux personnes. Et ils s'interrogent si on peut considérer, hein, qu'Apple est à la fin de l'ère des génies charismatiques. Bon, on ne sait pas.
Bah, avant que John Ive ait la partie matérielle et software, c'était déjà deux personnes, hein, dans le design, il me semble. Alors, j'ai pas les noms parce que je suis pas un pro d'Apple, mais dans mes souvenirs, il y avait déjà deux designers différents. Et lui a été nommé aux deux postes pour en faire qu'un seul et créer les deux. Donc, finalement, on revient à l'ère avant John Ive, donc avant 97.
Ouais, alors. Cook aurait d'ailleurs une vision moins romantique, il ne serait pas passionné par le design, et Bloomberg et Wall Street auraient recensé des dissensions, des divergences, voilà, qui auraient été peut-être amené un Johnny frustré à voler de ses propres ailes, une histoire qui a rapidement été démentie par Cook lui-même. Bon, on ne sait pas trop, hein, de toute façon, comme tu dis, on verra. Moi, en ce qui me concerne, de toute façon, je sais que dans cette émission, il se trouve qu'il n'y a pas d'utilisateur Apple intensif, quoi, hein, de grands connaisseurs de la marque, mais bon, c'est pas pour ça que je vais me retenir, parce que je dois avouer que pour ma part, je suis très d'accord avec l'article de Motherboard qui rappelle pertinemment que John Ive, c'est aussi des choix qui sont fort contestables, autant d'un point de vue écologique que fonctionnel aussi. Tu vois, à force de rechercher un design épuré au maximum avant tout le reste, tu vois, on élimine des ports utiles sur les ordinateurs, on fait des machines pro impossibles à upgrader, on fait des claviers si fins et si fragiles et qui durent même pas 6 mois, on fait des iPhones qui sont aussi d'une fragilité intenable parfois, bon voilà, on rend des appareils toujours plus difficiles, voire impossibles, hein, à ouvrir, à réparer, à upgrader. On va même jusqu'à tout coller, voilà, jusqu'à faire des vis propriétaires, et pour quelques fractions de millimètres, finalement, on fait des machines qui sont toujours moins durables, à l'image de ces AirPods, hein, ou des MacBook Pro, que même Apple semble avoir du mal à réparer. Bon, quoi, comme on l'a dit, cette tendance un peu absurde, hein, a conquis les autres marques, dont les téléphones par exemple sont eux aussi de moins en moins réparables, hein, et que dire des Surfaces de Microsoft. Bon, c'est mon avis, mais si l'ère Hive au sens large s'achève, bah, c'est tant mieux, parce que, au contraire, je pense qu'au contraire d'être avant-gardiste, cette manie de faire des objets hors sol qui sont magnifiques, mais qui sont finalement qui ont finalement peu d'impact, hein, peu d'égard pour leur impact écologique, ou qui se fait finalement au détriment de la liberté des utilisateurs, ben pour moi c'est un peu has-been, voilà, parce que pour moi, le futur, c'est l'ouverture, voilà, c'est l'interopérabilité, la modularité, la réparabilité, tu vois, la durabilité aussi, c'est le futur, c'est les Fab Labs, les Repair Labs, c'est l'échange, tu vois, c'est les utilisateurs qui sont libres et autonomes, et c'est pas juste des consommateurs. Alors je dis pas que Johnny est responsable de tous les maux du monde, là, bien sûr, mais disons que j'espère que le futur ressemblera donc à ce que je viens de dire, voilà, plus qu'à l'ère Hive, qui est un peu tout le contraire.
Ben, on le voit, Apple qui commence à intégrer les ports USB-C. Alors, l'avantage, c'est que c'est tout petit, donc ils peuvent l'intégrer dans leurs produits, mais au moins, il y a une intercompatibilité avec d'autres constructeurs, d'autres produits. Enfin, il passe à quelque chose d'un peu plus... Donc, on ne va plus être obligé de jeter son chargeur quand on passe d'un PC à un Mac, ce sera le même par la suite. Donc, on commence à avoir des choses un peu plus sympas. Et puis, on commence à grossir aussi, tu vois, avec les... Alors, c'est peut-être pas le bon exemple, mais avec les Samsung Fold, où on commence à reprendre de la place, donc le produit n'a plus besoin d'être miniaturisé. Alors, ça permet d'avoir des choses plus grosses en main et du coup peut-être plus réparables. Alors je parle pas du Fold parce qu'il est pas réparable du tout, mais potentiellement on va revenir sur des produits plus gros, donc avec des composants peut-être plus sympas à assembler, désassembler. Et puis Apple, ils ont quand même communiqué beaucoup, hein, sur leur fait qu'ils puissent recycler leurs produits avec leurs super machines. Je crois que c'est toi d'ailleurs qui en avais déjà parlé, oui, qu'ils avaient inventé une machine pour recycler leurs produits. Donc tu vois, ils vont dans ce sens-là. Alors pas encore pour tout, mais est-ce que John Ive n'était pas déjà en train de partir et qu'il pensait déjà à tout ça il y a quelques mois. Bon, quelques mois, c'est sûr, mais il y a quelques années.
Oui, c'est vrai qu'Apple recycle ses produits au maximum, on va dire. Après, moi, je préférais pouvoir changer moi-même la batterie d'un appareil plutôt que d'aller chercher Apple pour le faire ou d'être contraint de changer de matériel, comme c'est le cas pour les AirPods, par exemple. Bon, après, voilà, tout n'est pas ni blanc ni noir, mais c'est vrai que j'ai toujours eu un petit peu cette réticence vis-à-vis d'Apple aussi pour ça. Aussi parce que moi, j'étais plus Tim Wozniak, hein, avec des trucs, des standards, des ports, des trucs qu'on peut ouvrir et bidouiller. Et puis, bah, évidemment, les Call Jobs, ça a toujours été plutôt les trucs propriétaires, fermés, super beaux, super simples à utiliser, mais finalement, où tu as moins de liberté, quoi. Bon, après, c'est toujours deux visions, je suppose.
Ouais, bon, ça, l'un a bien marché, l'autre un peu moins peut-être, je sais pas.
On verra. Les Apple II ont très bien marché avant les Mac, mais bon.
Bah, écoute. Un peu moins que les iPhones quand même, je veux pas abuser.
Mais c'est sûr, c'est certain.
Pour moi, c'est une très très bonne nouvelle en fait, qui partent, qui voient d'autres horizons, et c'est une super bonne nouvelle pour le monde de la tech en général, puisque tout le monde s'inspire d'Apple. Donc c'est vraiment très intéressant, et je suis impatient de voir ce que ça va donner dans les prochaines versions de produits.
Oui, bah, effectivement, d'ailleurs, pour le futur, il y a deux, on va survoler deux petites news aussi pour dire qu'Apple aurait débauché Marc Philippot de chez ARM, qui est le responsable de l'architecture Cortex A76, donc c'est les derniers, hein, c'est ce qui équipera globalement les navires amiraux de cette année. Il remplacera Gérard Williams III à la direction CPU, hein, chez Apple. Donc là, 76, c'est un design qui est moderne et efficace. Hein, il est dans le Snapdragon 855. Et donc, c'est sans doute une belle prise, hein, pour un Apple qui entend bien continuer de mener le jeu en termes de puces mobiles et sans doute, dans un futur proche, se débarrasser totalement d'Intel. Alors, évidemment, quand la question est toujours, c'est la question de toujours, hein, ça pourrait dépendre des performances et des prix, surtout des futures puces 10 et 7 nanomètres d'Intel. Qui seront disponibles bon, en volume à la fin de l'année 2020, à la fin de l'année et en 2021 respectivement quoi. Je sais pas, tu as un pronostic toi sur cette grande transition dont on parle si souvent?
C'est ça, c'est ce que j'allais dire. On en parle tellement souvent que je sais plus trop trop où ça peut aller. Mais ouais, bah tant, enfin, ouais, je sais pas quoi dire parce que j'ai l'impression qu'on en parle tout le temps et que finalement ça aboutit pas. Puis on reste toujours coincé sur d'Intel. Bon, à voir, mais bon, il y a des concurrents sérieux qui se lancent sur, le, enfin qui se lancent, qui sont déjà présents. Et l'ARM, moi je l'utilise déjà très souvent dans d'autres produits, dans les Chromebooks par exemple. Ça marche très bien. Oui. Donc du coup, pourquoi pas sur
Apple. Ça marche très bien. Après, c'est vrai que le Intel est moins à la ramasse que Motorola à l'époque, où Apple a viré Motorola, quoi. Donc, bon, c'est pour ça que ça tient plus et que c'est beaucoup plus difficile de savoir quand est-ce que ça va vraiment basculer, même s'ils sont prêts à le faire au besoin, on va dire. On peut conclure d'ailleurs en parlant des claviers des MacBooks, puisque voilà qu'Apple a trouvé un problème sur certaines cartes mères de MacBook Pro Air, non, de MacBook Air, pardon, 2018, alors les versions 13 pouces Retina. Et bon, si vous êtes concerné, ou si vous avez juste un MacBook Air et que vous dormez plus la nuit, bonne nouvelle, votre machine sera réparée gratuitement pendant 4 ans, et vous serez prévenu directement par email si vous êtes concerné. Voilà, donc passez juste bien à faire bien une sauvegarde de toutes vos données.
C'est ça, c'est un running gag, les claviers avec les MacBooks.
Oui, alors ça, c'est même pas le clavier, c'est la carte mère qui pose souci. C'est un problème d'alimentation sur la carte mère qui fait que le truc s'allume plus. Hein, bon. Et oui, bah, ça, qu'est-ce que tu veux? Quelques millimètres de plus.
Il aurait fallu quelques millimètres.
Bon, écoute, on va conclure cette rubrique Macintosh pour pouvoir passer à l'international, mais on va quand même rester un petit peu avec Apple finalement, puisque cette première news concerne les MacBook Pro 2019, c'est aussi connu sous le nom de Rap à fromage. Cette luxueuse machine de 6 000 $ minimum hein, sera donc assemblée en Chine, et oui, près de Shanghai, par un prestataire taïwanais qui s'appelle Quanta. Alors c'est un peu étonnant quand même, cette époque de protectionnisme américain en pleine guerre commerciale avec la Chine justement, c'est d'autant plus que jusqu'ici quand même les Mac Pro étaient assemblés à Austin. Bon, alors, les mauvaises langues diront peut-être qu'Apple ne recevra peut-être bientôt plus les subventions gouvernementales du Texas pour produire localement, et que donc bah, la délocalisation en Chine permettrait de réduire le prix de fabrication, mais pas le prix de vente, hein, faut pas abuser. Bon, donc les marges, ça très vraiment bon pour les marges. Alors, quid des taxes d'importation, notons l'habileté d'Apple, qui fait donc appel à un prestataire taïwanais et pas chinois. Donc même si les machines sont assemblées en Chine, ça devrait passer crème.
Ils sont forts, Apple. Hein.
Ils sont forts,
et,
oui.
Et le pire, c'est, comme tu le disais, c'est ils vont baisser leur coût de fabrication, mais ils vont garder leur marge, voire encore les augmenter. Et ça, c'est assez impressionnant, de la puissance que Apple a, et ils n'ont peur de rien. Ils y vont, et le pire, c'est que ça va marcher. Et je mettrai un billet là-dessus facilement. Quand on voit la façon qu'ils aient de vendre des produits à 1 600 € sans aucun problème, voilà, ils vont se faire une marge de fou, acheter des actions Apple. Hein.
Oui, surtout s'ils vendent les plus haut de gamme, hein, les machines qui sont, les MacBook Pro là, de cette version qui sont les plus haut de gamme, sont encore probablement les plus chers et ceux sur lesquels ils font le plus de marge, c'est assez fou. Bon, écoute, on va pas refaire le match. De toute façon, on va en profiter pour parler de cette trade war, puisque le dernier G20 à Osaka a montré un signe de détente hein, qui est assez net de cette fameuse guerre commerciale, une sorte de trêve dans trade war. Des négociations qui reprennent, des taxes supplémentaires qui sont suspendues, mais bon, qui pondent toujours comme une grosse épée de Damoclès au-dessus de la tête des Chinois, et auxquelles les Américains souhaitent d'ailleurs soutirer un accord très favorable. Parce que, bon, ils expliquent qu'ils veulent un accord qui soit ouvertement inéquitable pour les Chinois, pour pouvoir rattraper en quelque sorte le déséquilibre dont ils ont été victimes. Alors bon, pour Huawei, les entreprises américaines pourront à nouveau vendre leurs produits. Voilà. Donc Trump sauve la face hein, en mettant en avant les intérêts des entreprises américaines qui réclamaient à corps et à cri hein, de ne pas les priver d'un client majeur et qui, de toute façon, on l'a évoqué dans l'épisode précédent, trouvent toujours le moyen de vendre quand même. Donc voilà. Bon,
Ce qui est assez amusant, c'est de voir que, en fait, finalement, Trump n'avait rien à reprocher au niveau sécurité, visiblement, aux Chinois. Parce que maintenant, quand on parle d'argent, finalement, la sécurité passe en second plan. Et ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que, du coup, tous les pays du monde, enfin j'espère, ont compris qu'en fait, Trump, enfin les États-Unis, avaient un pouvoir tout puissant sur tout le monde, faisaient ce qu'ils voulaient de tout le monde. Donc Trump, il va avec un bras de fer, enfin, c'est un bras de fer de fou, il menace et ça marche. Sauf que derrière, il a attaqué un groupe qui s'appelle Huawei, qui est vraiment très très puissant. Et j'ai ouï dire que quand même, ce constructeur avait commencé à réfléchir à avoir son propre système d'exploitation. Et les dernières rumeurs disent que ça fait quand même 7 ans qu'il pense avoir son propre système d'exploitation. Moi, je me méfierais un petit peu des États-Unis. Je me méfierais, si j'étais les États-Unis, à pas perdre le monopole, enfin le poids que j'ai sur le commerce international. Parce que la Chine, avec tout ce qu'ils ont aujourd'hui, ont compris. Ils n'avaient pas compris quand ZTE s'est planté. Ils ont pas la première sommation, ils n'ont pas bien compris. Là, la deuxième, je crois qu'ils ont compris. Ils vont peut-être se réveiller et faire leurs propres produits et essayer de limiter leur dépendance aux États-Unis. Et quand ça va arriver, à mon avis, ça va faire mal à beaucoup de monde, mais pas qu'aux États-Unis, à tous les autres pays qui sont partenaires. Et ça reste quelque chose d'intéressant à suivre, et je pense qu'on va en reparler encore et encore. Et ça va faire précédent sur tout l'univers de la tech et sur tous les utilisateurs, les consommateurs que nous sommes. Nous allons, à mon avis, subir très cher dans quelques années.
Bah écoute, oui, alors l'assouplissement qu'on voit là, il est quand même pas du goût de tout le monde à Washington, hein, et Huawei d'ailleurs est toujours sur la liste noire des entités à bannir, donc il reste bon, le mois d'août largement, d'ici le mois d'août, hein, il y a largement assez de temps pour trouver un accord. Et déjà, la Chine lève des restrictions sur les investissements étrangers et promet d'acheter des grosses quantités de produits agricoles américains. Du coup, toi, pour le feuilleton de l'été qui est Trade Wars, est-ce que tu penses à une fin heureuse pour cette saison-là, avec un Huawei qui revient en grâce et voilà, et tout est pardonné?
Ouais, pour l'instant, à mon avis, ils vont revenir, ils vont dire ok, on revient, on en profite pour essayer de pas mourir tout de suite. On va essayer de prendre un peu d'argent pour prendre un peu d'avance. On travaille de notre côté pour faire autre chose en même temps, essayer de se limiter à nos dépendances avec les États-Unis. Donc Android, on fait notre produit à côté. Les chipsets, on va faire aussi nos produits. Ils ont les capacités financières, intellectuelles, technologiques pour faire à peu près tout. À mon avis, ils vont se tasser, ils vont se dire ok, on l'a fait profil bas, on dit rien. On dit que Trump il a gagné et dans quelques années on revient mais avec nos propres produits puis on casse le marché comme ils l'ont fait. Ils étaient nuls, ils imitaient les téléphones avant. Si on parle que de téléphonie, ils les imitaient et aujourd'hui c'est eux qui initient les nouveaux mouvements. C'est devenu le produit, enfin le pays incontournable quand tu veux acheter un produit high-tech, ce qui n'est qui est gage de qualité aussi maintenant. Hein. On n'est plus sur du low cost, du bas de gamme. Donc moi je m'en méfierais, je pense qu'ils vont se tasser, ils vont s'asseoir tranquille dans un coin et puis on en reparlera début d'année prochaine, courant mars, avril je pense, où ils nous sortiront un truc de fou et où les États-Unis vont un peu pleurer je pense.
Oui, bah écoute, sans aucun doute, d'ailleurs, il y a un autre rebondissement en rapport avec la Chine, hein, qui c'est une histoire du Wall Street Journal qui accuse AMD d'avoir été trop proche de ses collaborateurs chinois, parmi lesquels d'ailleurs il y a Sougon Information Industries, c'est un fabricant de superordinateurs, et on en parlait d'ailleurs la semaine dernière, hein, qui a été récemment interdit de toute collaboration avec les entreprises américaines. Alors, c'est un truc un peu technique, puisque AMD aurait créé un montage complexe pour passer entre les mailles du filet des régulations américaines avec toutes ces boîtes et pour leur fournir des puces, des technologies avancées pour des super machines. Ça leur a rapporté évidemment beaucoup de pognon, hein, au moins 300 millions de dollars, mais Sougon, évidemment, est lié à l'armée chinoise et cette collaboration, qui date de 2016, fait assez mauvais effet. Alors, du coup, c'est sûr que tu aides au déploiement de superordinateurs, donc ça peut avoir potentiellement un impact directement stratégique, et puis après, tu as quelque part collaboré avec des Chinois, donc tu leur as peut-être exposé des secrets industriels. Alors, c'est vrai que c'est un truc un petit peu technique, mais je pense que c'est intéressant parce que ça illustre bien le climat vraiment très particulier dans lequel on est. Parce qu'AMD se défend évidemment, hein, selon lui, tout a été fait dans les règles de l'art, hein, et même les sources du Wall Street Journal sont louches. Et une source d'ailleurs, c'est Robert Spalding qui avait quitté le gouvernement après avoir proposé de nationaliser les infrastructures 5G pour doubler les Chinois. Bon. Et alors, en fait, si on y regarde techniquement, si on décortique un petit peu le montage, on se rend compte que c'est très très improbable qu'il y ait eu des fuites comme ça, des vols de propriété industrielle. Parce que bon, c'est un montage entre AMD et GlobalFoundries, donc qui fabrique les puces, et se pose la question du scénario, alors pour le pire des cas, hein, pour être. Voilà. Donc, si le pire des cas, ce serait que les schémas complets de GlobalFoundries d'une super puce pour un super ordinateur, ben, elles passent effectivement en Chine telles quelles. Bon, alors qu'est-ce qui se passerait? Ben, d'un point de vue technique, les schémas, quand une usine utilise un schéma pour produire une puce, elle est liée à l'usine et aux techniques de fabrication, aux chaînes de fabrication auxquelles elles sont destinées. Donc on ne peut pas directement fabriquer un CPU chez Samsung avec des plans de chez Intel, parce que les plans de chez Intel ils sont prévus pour les usines Intel, et les usines Samsung, ce n'est pas les mêmes. Donc il est possible de les adapter, mais ça demande des gens compétents, ça demande beaucoup d'argent, du temps, ça demande au moins un an, je pense, pour faire un truc comme ça, pour transférer en fait les plans d'une chaîne de montage sur une autre. Et en plus, la Chine n'est pas au niveau de finesse de gravure des Américains ou des Coréens ou des Taïwanais. Pour le moment, hein. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait énormément de moyens pour avoir au final un CPU bah, qui tournerait beaucoup moins vite, puisque forcément, si avec une finesse de gravure moins grosse, bah, il tournerait moins haut en fréquence et donc serait moins puissant. Donc c'est pas très très rentable. Quant à itérer sur un design, bah, c'est encore bien plus compliqué que d'adapter les plans d'un CPU tout fait. Bon voilà, donc un tel vol de propriété, c'est quand même très peu probable, vu la structure du deal. Bon, la Chine, en plus, a désormais ses Sunway, hein, c'est la poste assez propre, plus haute performance, qu'ils mettent dans leur propre superordinateur, et ce ne sont pas du tout des clones des EPIC d'AMD. Donc bon, c'est peu probable. Mais c'est vrai que voilà, ça montre qu'il y a un climat de suspicion qui est très 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 palpable en ce moment aux États-Unis, et là on est à deux doigts d'une nouvelle chasse aux sorcières, j'ai l'impression, non? C'est pas ça, quand ça te fait penser?
Oui, c'est ça. En gros, on va attaquer en permanence. Enfin, il y aura un combat entre les deux indéfiniment. Enfin, tant que Trump sera au pouvoir, je pense. C'est assez impressionnant de voir que. Parce que là, il y a des preuves. Non, on n'a pas de preuves, encore une fois, si. Ouais, on est d'accord, c'est juste on balance un mot et puis on le fait sur Twitter au départ ou on fait quand même quelque chose d'un peu plus propre, non?
Non, bah, il y a des sources qui ont témoigné bon, donc pour Bloomberg qui parlent de voilà, qui disent en fait que le montage est assez flou et qu'il y aurait très bien pu y avoir des transferts de technologie, etc. etc. Bon. Et bon, effectivement, si on y réfléchit un petit peu, ça paraît très peu probable, quoi.
Ouais, c'est plus pour déstabiliser encore une fois, à mon avis, plutôt qu'autre chose. Ça va dans l'air du temps, je dirais, c'est normal. Essayer de casser la concurrence comme ça, moi je trouve pas ça très fair play, mais bon, a priori c'est ce qui se fait maintenant, donc je vais changer mes techniques de vente maintenant. Je vais casser la concurrence.
Ouais, bah non, bon, disons que voilà, on montre à quel point les Chinois sont les nouveaux Soviétiques, quoi, ça, c'est assez rigolo. Ah bon, c'est vrai que les Chinois nous espionnent, évidemment, peut-être, bon, sûrement, c'est hautement probable en fait. Mais c'est hautement probable parce qu'on le fait tous, même les Occidentaux, nous aussi, on fait exactement pareil. Il y a d'ailleurs, fin 2018, il y a un set de malware qui s'appelle Regin, qui a été utilisé pour pénétrer Yandex. Alors Yandex, c'est le Google russe, en gros, c'est le moteur de recherche multicarte russe. Et bon, Regin, il paraît que c'est la fine fleur des malwares. C'est une trousse à outils hautement sophistiquée hein, que les Five Eyes utilisent. Alors les Five Eyes, c'est pas nous, on n'est pas dedans, puisqu'il y a les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc globalement, c'est les Américains et le Commonwealth. Et bon, entre octobre et novembre 2018, Regin aurait été utilisé pour chercher des infos techniques sur Yandex et la manière dont les utilisateurs s'authentifient. Alors ça, ce sera très très utile, parce que si tu le sais, évidemment, tu peux te faire passer facilement pour un utilisateur normal et espionner en toute quiétude. Donc en fait, ce hack aurait touché l'équipe de R&D de Yandex, et selon eux, bon, ça aurait été détecté à temps et contenu très tôt. Évidemment, personne n'a commenté l'histoire, certainement pas les services secrets, donc on est sûr de rien, sauf que les cyberespions s'amusent bien.
Et c'est, j'aimerais bien voir du côté des Russes leur publication. Est-ce qu'ils l'expliquent? Est-ce qu'ils mettent en avant? Et comment ils justifient le fait d'avoir pu être piratés par les étrangers?
Ils sont piratés tout le temps. Le Kremlin a assuré qu'ils étaient pirates, qu'ils subissaient des attaques occidentales quotidiennement, qu'il n'avait rien à dire sur cette attaque spécifique, on va dire.
D'accord. Bon après, de toute façon, tous les pays attaquent tous les pays, donc c'est la guerre moderne. On ne tue plus des hommes, on attaque directement le.
On attaque des PC, pauvres petits PC.
Ouais, c'est ça, ils n'ont rien fait en plus. Oui. Mais on attaque directement ce qui peut faire mal, hein, puisque si on arrive à toucher l'économie, on peut toucher l'économie mondiale juste en hackant certains ordinateurs, mais écoute, ou certains serveurs, tant mieux. Hein, je préfère ça à la perte de vie humaine, finalement.
Oui, enfin, sauf que, oui, c'est sûr. Non, on est tout à fait d'accord. Même si, effectivement, certains hacks peuvent coûter des vies, hein, puisque. Il suffit que tu coupes l'électricité dans une ville, parce que si tu peux le faire à partir d'un serveur, ce qui est déjà possible et qui sera, à mon avis, de plus en plus possible dans le futur. Tu peux faire mourir des gens, hein. Tu coupes l'électricité pendant quelques heures dans un quartier, tu peux avoir des morts, hein, pour plein de raisons d'ailleurs.
Donc, c'est... Ouais, on est d'accord. Ou l'électricité dans un hôpital ou des choses comme
exemple,
ça. Mais,
exactement, parce qu'il y a un hôpital, oui, tout à fait, ou des malades.
Ouais, je pense que s'attaquer à l'économie directement, c'est plus simple. À l'argent, ça fait moins de mal et ça fait moins de mal aux gens et fait plus de mal à un pays. Si t'as plus d'argent qui peut transiter, c'est devient compliqué parce qu'on arrive à une économie sans argent sonnant et trébuchant. Tu vas bientôt plus échanger de billets. Les bitcoins vont prendre le pas.
Bah, enfin, tu m'offres une transition toute trouvée, dis-moi.
Puisque le
bitcoin remonte, enfin un peu moins que la semaine dernière, puisque là il doit tourner aux dernières nouvelles autour des 10 000 dollars, mais bon, il est tout de même assez haut, hein, pour que les mineurs reprennent du service, hein, ça y est, et bon, cette fois-ci c'est en Iran. Donc il y a deux usines désaffectées de Yazd, une région en Iran, où la consommation électrique a brusquement augmenté, tellement que ça rendait d'ailleurs tout le réseau électrique instable, localement. Un bon millier de machines spécialisées consommaient donc ce petit mégawatt, avec à la clé une hausse de 7% de la consommation globale, c'est assez glouton. Et une gloutonnerie d'ailleurs ces petits malins voulaient profiter des tarifs subventionnés en Iran, hein, et c'est pas passé inaperçu. Et au-delà de la blague, l'électricité peu chère et la valeur du bitcoin fait une bonne opportunité de contourner l'embargo américain en Iran. Parce que d'ailleurs il y a le New York Times qui, en janvier dernier déjà, décrivait comment les Iraniens utilisaient les bitcoins pour effectuer des transactions internationales tranquilles. Et à l'époque, l'énergie peu chère rendait même rentable les vieux ASIC qui avaient été abandonnés partout ailleurs. Les Américains sont parfaitement conscients de ça et ils jouent à tap-top avec les wallets de sites iraniens et les sites d'échange de crypto. Et du coup, c'est peut-être dans ces pays, finalement, qu'on voit le mieux le potentiel du bitcoin s'exprimer en tant que chose utile, on va dire. Même s'il ne faut pas oublier que tous ces magnifiques générateurs de crypto-monnaies, ils utilisent des générateurs électriques qui utilisent du gasoil ou du charbon. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire ?
Ouais, bon, on mettra des panneaux solaires par la suite, t'inquiète pas, hein. Enfin, quand il n'y aura plus tout ça.
Ouais. C'est vrai que ça aurait été mieux qu'il fonctionne au solaire. Mais donc tu vois effectivement, comme tu disais, hein, le bitcoin, et bon les crypto-monnaies en général, ça devient aussi, ça commence à faire partie du jeu, et bon, c'est que le début, je suppose.
On va le voir avec... un autre concurrent, enfin un autre qui arrive sur le marché du Bitcoin, on en a parlé la semaine dernière, je crois, qu'ils sont sortis, ou il y a deux semaines.
Oui.
Nos amis.
Et oui, bah oui, parce Facebook. Que le Libra continue de faire parler de lui, hein, et de susciter le doute un petit peu partout. Donc déjà, d'ailleurs, il y a le vœu pieux de Facebook de donner des facilités bancaires à ceux qui n'en ont pas, se heurte à plusieurs objections, hein, parce que déjà, il y a plusieurs solutions qui existent. Hein. Il y a M-Pesa qui permet déjà à 74% des Kenyans de faire transiter de l'argent, et ça sans aucune banque, et il s'est implanté dans plus de 10 pays déjà, et il y a d'autres solutions qui sont même plus rigolotes, comme Razer Credit. Oui, Razer, le fabricant de souris gamer, hein, qui a fait un partenariat avec Visa, oui, lui aussi. Et il fait des cartes prépayées, virtuelles ou non d'ailleurs, qui permettent de faire des échanges, quoi. Donc voilà, en fait une crypto-monnaie n'est pas vraiment nécessaire pour accomplir ce que Facebook décrit, hein. Il y a des solutions qui existent déjà. Et en plus, Facebook est interdit en Chine et dans plusieurs des pays qui profiteraient le plus de Libra, puisque voilà, au Bangladesh, au Pakistan, en Indonésie, Facebook a déjà été coupé. Et bon, si tu coupes Facebook et que c'est aussi la banque de la moitié des gens, ça va être compliqué, quoi. Bon, au Pakistan, au Bangladesh, on n'aime pas trop les crypto-monnaies en plus. Hein, pour devenir la banque, la monnaie mondiale du futur, voilà, il va falloir encore du boulot.
Moi, ce que j'ai compris de Libra, c'est que c'est pas vraiment une crypto-monnaie comme on l'entend en fait. C'est pas une vraie blockchain ou c'est a priori les membres fondateurs qui décident en fonction de l'argent qu'ils apportent du coût de la monnaie ou de choses comme ça. Oui, donc c'est pas tout à fait la même chose que le Bitcoin ou l'Ethereum.
Différent. Non, mais c'est complètement différent. Mais on en avait déjà parlé deux fois. Ça fait pas si longtemps que ça que c'est annoncé. Mais oui, donc la structure de données du Libra, c'est pas une blockchain parce que y a pas de chaîne, tout simplement. C'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est plus compliqué. C'est différent. Voilà, c'est pas une chaîne. C'est on conserve des structures de données qui sont des comptes et pas juste des chaînes de transactions. Et puis, effectivement, il n'y a pas de minage au sens Bitcoin. Par contre, il n'y a pas non plus n'importe qui peut faire partie du réseau, quoi. T'es obligé de faire partie des 28 ou 27 membres fondateurs. Et du coup, ça facilite beaucoup les choses, parce que forcément, si tu ne fais pas de minage qui consomme énormément d'énergie, tu dois utiliser des proof of stake pour valider les transactions, et pour valider les transactions avec énormément de gens, dans un environnement où il y a très très peu de, voire pas du tout d'ailleurs, de confiance, eh ben c'est une tannée. Du coup, si tu as que des happy few, des gens en qui t'as confiance, bon bah forcément ça facilite les choses et ça permet à Libra de peut-être en tout cas d'implémenter quelque chose que Ethereum par exemple n'a pas été capable d'implémenter à cause de problèmes techniques insurmontables quoi, à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau des transactions dans un environnement qui est non sûr. Bon. Alors, de toute façon, d'après les white papers, Libra est pensé. Donc, déjà, c'est un truc qui est pensé pour les gens avec des comptes en banque. Hein, tu sais, qu'il parlait de faire des distributeurs échangeurs alors, je sais pas, probablement de liquide. Mais bon, ça reste vraiment très, très, très vague, quoi, tout ça. Ouais, bah, d'ailleurs, au détour d'un article du Times, on découvre que parmi les 27 partenaires de Facebook dans le consortium Libra, certains ont des doutes aussi. Les 10 millions promis par chacun, comme tu disais, n'ont pas encore changé de main. Et certains se réservent le droit de se retirer si, après clarification, hein, Libra ne leur convient pas. Donc, ils sont là en gros uniquement parce qu'ils ont signé des accords qui ne les contraignent à rien du tout. Alors, tu as des enthousiastes, hein, comme Spotify, Uber, c'est-à-dire ceux grossièrement qui ont tout à y gagner. Et puis, ben, tu as Coinbase, tu as Visa, Mastercard, eux, ils sont beaucoup plus on va réservés, hein, ils sont arrivés en dernier. Et d'ailleurs, on sait maintenant que des banques comme JP Morgan ou Goldman Sachs auraient été approchées mais auraient décliné l'offre. Bon, d'ailleurs, Coinbase est préoccupé aussi parce que c'est vrai que Facebook, il n'a pas une réputation incroyable sur la vie privée, et la vie privée, c'est un enjeu qui est légèrement important dans le monde des cryptos, tu vois, c'est un petit peu le truc central.
Mais ce qui est paradoxalement, parce que c'est Facebook, ça peut marcher. C'est ça qui est étonnant. C'est que malgré tout ce qu'ils ont fait ces dernières années, ils n'ont pas perdu tant d'utilisateurs que ça. Et je serais prêt à parier que ben, malheureusement, heureusement, je ne sais pas qui on est, mais ça peut marcher. Et c'est peut-être comme ça qu'on va enfin démocratiser les crypto-monnaies par la banalisation de Libra qui se dit être une crypto-monnaie qui n'en est pas une, mais on va faire l'amalgame assez rapidement. Enfin, pas toi, pas moi, pas les enthousiastes technologiques, mais monsieur et madame tout le monde, je pense qu'ils vont commencer à se dire bah, tiens, c'est bien la crypto-monnaie, j'ai de la Libra, c'est génial. Et puis ils vont peut-être se lancer petit à petit dans d'autres crypto-monnaies. Puis à mon avis, c'est le début de quelque chose d'assez important. Peut-être pas Libra, c'est peut-être pas eux qui vont finaliser tout ça. Mais ça va rentrer dans l'esprit du grand public et peut-être apporter encore d'autres solutions et peut-être plus de facilité pour utiliser les crypto-monnaies. Moi, perso, j'en ai pas parce que ça me semblait trop complexe à la base, quand on regarde ça de loin, trop complexe à appréhender, à mettre en place pour soi personnellement.
Bah,
Donc.
moi j'ai tendance à penser que elle pourrait avoir beaucoup de succès cette monnaie si elle venait à exister un jour. Hein, bon, elle a un petit peu de mal à décoller hein, parce que tu sais qu'il y a les services financiers américains qui demandent officiellement de stopper le développement de Libra parce qu'ils pensent qu'en l'état elle pourrait s'avérer dangereuse. Puis bon, en plus c'est très 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 comment dire, ça serait très embryonnaire. Hein. Il y a un quotidien italien qui bon, ils sont peut-être allés sur place, hein, je sais pas. Ils ont vu que les locaux de la Libra, de la fondation Libra, sont actuellement occupés par une entreprise qui a strictement rien à voir. Bon, alors je sais que Libra, c'est que dans 12 ou 18 mois au minimum, mais bon, ça, c'est vrai que ça fait un peu tâche. Moi, je pense qu'effectivement, si elle décolle finalement, cette monnaie, oui, elle pourrait avoir énormément de succès. Ne serait-ce que parce que, voilà, bah, c'est Facebook, tout le monde l'a, ou plus ou moins, et puis c'est Messenger, tout le monde l'a. Et il y a donc cette espèce de facilité qui va. Qui, voilà, c'est une facilité de plus. En général, c'est vrai que quand il y a une facilité, les gens aiment bien l'utiliser, quoi. Hein. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien l'utiliser. Tu utiliseras, toi? Enfin, je ne sais pas si tu utilises Messenger ou WhatsApp, et si ça te trouve, si tu penses que ça pourrait être un truc qui pourrait être vraiment utile pour payer, je ne sais pas, des petits montants.
Après, ça peut être intéressant, ça va dépendre qui va l'utiliser. Tu vois, il y a eBay et compagnie, donc si on peut avoir de la monnaie, alors j'imagine qu'au départ, Libra va être distribué à tout va pour montrer aux gens, bah, tiens, tu regardes ma vidéo pendant 20 minutes, je te donne X Libra. Et donc on va se retrouver avec un petit portefeuille de Libra, on ne saura pas forcément quoi en faire au début. Facebook va faire des petits dons, des petits cadeaux comme ça, à droite, à gauche, pour nous dire, bah, tiens, au fait, oublie pas, tu as des Libra à dépenser. Donc du coup, on va aller chez le vendeur qui accepte les les Libra, donc en l'occurrence eBay, puisqu'ils sont partenaires, encore faut-il qu'ils le soient jusqu'au bout. Mais du coup, on va me proposer d'acheter soit en argent sonnant trébuchant, mon produit va coûter 20 euros, et puis en Libra, il coûtera plus que 18 Libra, parce qu'il y a moins de frais de change, il y a moins de taux de banque et choses comme ça. Donc du coup, je vais peut-être me dire, bah tiens, je vais utiliser les Libra qu'on m'a donné, et puis finalement, ça me coûte que dalle. Donc peut-être que comme ça, ça va être simple. Après, je ne suis pas un utilisateur de Facebook, je ne suis pas un utilisateur de Messenger, enfin tous les produits Facebook, je ne les utilise pas, je les ai, j'ai mon compte, parce que je ne voulais pas qu'ils soient pris par quelqu'un d'autre, tout simplement, mais je ne suis pas un gros utilisateur. Alors, mais je suis quand même curieux d'essayer, pourquoi pas, je testerai pour voir les systèmes, tu vois, si je prends Uber, est-ce qu'il va me prendre mes Libra plutôt que mon argent? Pourquoi pas?
Bah, il prendra les deux, manifestement, mais ça sera peut-être un petit peu moins cher en Libra, comme tu dis. Spotify aussi, pour être intéressé, tu pourras aussi payer effectivement tes achats sur eBay d'abord, Le Bon Coin peut-être un jour en Libra. Et oui, donc parce qu'il y a cet aspect de facilité, il y a cet aspect de petits cadeaux aussi, de petites bonnes affaires, comme de petites bonnes affaires comme ça que tu peux faire, et c'est vrai que ça peut marcher. Ça marche et ça peut aussi te faire entrer dans un truc qui n'est pas forcément super pour toi, mais qui est utile. Alors, ça nous amène vers notre prochaine section, hein, qui est une section sur l'intelligence artificielle, mais qui, ou paradoxalement, on va parler de ces petits cadeaux, de ces petits avantages. Puisqu'il y a des inquiétudes aussi sur les scores sociaux, ça en pose aussi des inquiétudes. Hein, ils se multiplient, ces scores, et ils s'annoncent un petit peu comme des incontournables, on va dire, pour toute boîte suffisamment grosse et qui propose un bouquet de services suffisamment large. Les derniers en date sont les Japonais de Line. Line, c'est la super messagerie japonaise. Donc voilà, elle fait un petit peu tout, hein, comme toutes les grosses super messageries en Chine ou même bientôt avec Facebook. Et puis bon, en collaboration avec Mizuho et Orico, donc une grosse banque, des gros financiers japonais, ils vont lancer un score qui donnera accès à des promos, à des services plus élaborés. Voilà, si tu t'inscris à ce truc-là, t'as des petits points, etc., etc. Puis voilà, ce score sera calculé qu'avec l'accord de la personne, hein, et utilisera l'intelligence artificielle pour dresser un profil quantitatif, c'est-à-dire sous la forme d'un nombre entre 100 et 1000. Et puis le plus haut est ton score, mais le plus avantageux seront tes services, tu auras des petits cadeaux effectivement, tout ça. Bon, alors, recevoir des bonus en étant client modèle, ça peut sembler assez anodin, mais il ne faut pas s'y tromper, hein. Line, WeChat ou toute autre appli couteau suisse comme ça de ce type, c'est tellement de choses sur toi, agréger et recouper toutes les informations qui avec des gros algos d'intelligence artificielle, ça peut être assimilable à la surveillance en réalité. Hein. Et faire ça sur des dizaines ou des centaines de millions de personnes, ça se rapproche de manière assez troublante d'une surveillance de masse, ce sur quoi le gouvernement chinois, grand spécialiste de la question quand même, ne s'est pas trompé. D'ailleurs, l'Union européenne vient de publier un rapport du groupe d'experts de haut niveau sur l'intelligence artificielle dans lequel il appelle entre autres à bannir l'analyse en masse de données individuelles par les IA comme ça. C'est des experts qui viennent d'IBM, de Google, d'Oxford, de tous horizons. Hein. Et donc, voilà, ils font un grand nombre de recommandations sur 52 pages. Il y en a beaucoup qui semblent d'ailleurs du pur bon sens. Cela dit, face à certaines logiques politiques ou commerciales, ça ne semble pas peser bien lourd. Ça t'inquiète, toi, cette généralisation comme ça, des scores un petit peu partout?
Ah, c'est un truc de fou, vous le dites tout le temps dans les épisodes de Tech Café, c'est du Black Mirror en perspective, et c'est assez impressionnant parce que là c'est des petits bonus, allez, admettons, mais combien coûtent tes données personnelles? D'ailleurs, il y a des cas aux États-Unis où ils sont en train de se poser les questions de combien coûtent les données personnelles réellement, donc certains vont dire que tes données personnelles vont coûter jusqu'à 200, enfin pourraient te rapporter 250 euros si tu les vendais toi-même, donc te faire un cadeau. Ok, mais est-ce que tu le maîtrises ou pas? Ça serait mieux. Est-ce que tu as vraiment le choix de donner tes informations? En France, il y a UFC Que Choisir, je crois, qui attaque Google pour avoir utilisé les données personnelles en leur disant qu'il faut donner 1000 euros à chaque utilisateur par an parce qu'on utilise ces données personnelles. Moi je suis content qu'ils les utilisent parce que j'ai des services qui marchent très bien. Moi j'utilise énormément Google Maps parce que je suis un peu tête en l'air. Il me prévient quand je dois tourner à droite, alors que je le sais, hein, je prends le même trajet quasiment tous les jours. Mais il me prévient et il me prévient parce qu'il m'a scruté. Donc ça, je suis content pour ça. Donc j'ai des services, je les laisse. Le problème c'est que beaucoup d'utilisateurs ne sont pas conscients qu'ils donnent leurs informations et c'est là le problème à mon avis. Après, si on se passe sur sur la Chine, c'est encore pire. Là, tu n'as carrément pas accès à certains services nationaux. Tu ne peux pas prendre l'avion si tu as un score trop bas. Tu peux pas. Enfin, par contre, ça fait peur. Par
Ouais.
contre, ouais,
Mais tu
clairement.
vois, bon, moi aussi, hein, j'utilisais énormément les services Google en général. Hein, Google Maps m'a sauvé la vie, que ce soit ici à Lyon ou même ailleurs. Évidemment, international, c'est encore plus sensible. Mais tu vois, le problème aussi, c'est qui agrège toutes tes données, toutes tes informations, quoi. C'est-à-dire, si tu utilises Google pour tout, moi, c'est pas possible pour le moment, encore que c'est presque possible. Ben, forcément, après, le profil, tout ce qu'ils savent de toi, ça devient assez effrayant, quoi. Je sais pas si tu avais essayé de télécharger la totalité de tes données ou de voir ce que. Tu sais, dans un épisode, on avait.
Je l'avais fait avec Google,
Ouais.
j'ai abandonné parce que j'avais une bande passante qui était trop faible,
Ça faisait
parce que
47 gigas.
le document était trop lourd à récupérer, mais c'est assez impressionnant. Donc j'avais regardé les premières choses. Alors Google, j'ai essayé sur Facebook et sur Google, et comme je l'ai dit tout à l'heure, Facebook en fait, il ne me connaît pas du tout. En fait, toutes les informations qu'ils m'ont demandées sont fausses. J'aurais jamais donné la vraie vérité sur moi. Donc en fait, ils ne savent pas me cibler du tout. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour moi. Donc, je suis né à une époque où on pouvait prendre Facebook sans donner son nom, sans donner son date de naissance. J'étais au tout
Ah
début
oui,
de
je vois.
Facebook. Donc, mon compte est très très vieux, donc j'ai aucune information et je veille à ne pas leur en donner. Par contre, Google, j'ai plus de mal à pas leur en donner et ils savent vraiment beaucoup de choses. C'est presque effrayant parce que c'est effrayant, mais c'est très intéressant. Ils me donnent énormément de services et je suis très content qu'ils me les donnent. Hein. Enfin, j'utilise beaucoup Google Assistant en plus, donc c'est encore pire. Il connaît même ma voix maintenant, donc il sait reconnaître ma voix ou celle de mon ami. C'est ça, c'est assez perturbant. Quand je lui demande mon agenda, il me donne le mien et pas le sien. Donc il connaît tout. Il sait mes déplacements. Il récupère ma carte bancaire. Ah oui, une nouveauté. Il récupère ma carte bancaire. Maintenant, quand je vais sur un site marchand que je veux acheter, tac, il m'affiche ma dernière carte bancaire. Ça fait encore peur, quoi. Ouais, c'est assez bluffant. Mais j'ai choisi de donner mes données à Google en connaissance de cause, par contre. Je sais ce qu'ils ont maintenant, surtout que depuis que j'ai regardé ce qu'ils avaient téléchargé au départ. Mais ça fait peur hein, quand même. Tu te dis tant que c'est, je me dis tant que c'est les créateurs de Google qui sont à la tête de Google, bon, j'ai pas trop de risques. Mais j'imagine que si ça venait à passer dans des mains de quelqu'un qui est un peu plus, comment dire, Trumpien, qui veut conquérir le monde, ça va me faire peur parce qu'il sait beaucoup de choses sur moi.
Ouais, ben, je pense que Trump peut savoir beaucoup de choses sur toi s'il veut, hein, si vraiment il le demande, tu sais.
C'est
Il
ça,
allait loin pour
malheureusement.
déjà, je pense, mais bon. Espérons qu'il ne soit pas trop intéressé par les dessous du cicabicho.
J'espère, j'espère.
Bon, on va passer à une rubrique deepfake, hein, puisque la deepfake aussi, on en parle aussi énormément. C'est devenu un sujet récurrent dans tes cafés. Hein, j'ai dit maintes fois, à peine une année, hein, c'est devenu une sorte de récurrent. Petit à petit, d'ailleurs, l'arsenal légal s'y adapte aussi, hein, en Virginie, les deepfakes animés ou pas. D'ailleurs, donc les fakes faits à la mimine aussi, faits avec tu sais, avec Paint, sont utilisés pour nuire à des personnes, et ben désormais ils sont explicitement interdits. Bon, en fait, c'est juste un changement plutôt mineur, hein, d'une loi de 2014 qui prohibait déjà les photos de nus utilisées comme moyen de pression. Et là, même les photos et les vidéos trafiquées, donc qui tombent sous le coup de la loi, donc les peines peuvent aller de 12 mois de prison, enfin jusqu'à 12 mois de prison et 2 500 $ d'amende. Alors quand je parle de deepfake fixe ou animé, c'est qu'en plus des outils de manipulation vidéo dont on a parlé en long, en large, en travers, il y a eu cette semaine de gros titres dans pratiquement toute la presse internet, hein, sur le dernier avatar de cette mouvance qui s'est appelé Deep Nude. T'as pas pu rater ce logiciel qui utilise les réseaux de neurones pour déshabiller les femmes, Nicolas.
Ah non, je l'ai pas loupé. Enfin, je l'ai pas loupé. Si, je l'ai loupé. J'ai pas pu le télécharger. Il était déjà désactivé.
Et oui, je sais. Parce que c'était une appli payante avec une démo gratuite qui permettait, d'après son créateur, hein, elle agissait un petit peu comme des lunettes qui déshabillent. Des lunettes qui déshabillent, on a vu ça plusieurs fois. Donc, d'ailleurs, l'occurrence la plus ancienne, c'est la pub Athéna des années 80. À l'époque, elle déshabillait les hommes. C'était une femme qui mettait des lunettes et ça mettait les hommes en slip. Et donc, il y en avait un qui avait un slip Athéna et du coup, il était beaucoup plus séduisant que tous les autres, bien entendu. Je vous en
D'ailleurs, je n'achète plus que des slips Athéna.
Je n'achète plus que des slips Athéna depuis, évidemment, mais ça marche pas trop.
Pas trop, non.
Bon alors, Moverboard a écrit un article bien senti, hein, sur cette application d'un bon goût certain, et devant le tollé général qu'elle a provoqué, elle a été retirée. Alors, le principe, d'ailleurs, le principe, il est assez connu, hein. Ça repose sur l'algorithme Pix2Pix, qui a été imaginé par l'université de Berkeley, en 2017. Et en fait, c'est un GAN qui peut être utilisé pour faire des traductions entre images. Donc à l'époque, les chercheurs, ils avaient fait des algos qui transforment des croquis en des trucs photoréalistes. Par exemple, un croquis de chat, ça devient un chat, enfin une photo de chat, quoi. Ou alors un croquis de chaussure, ben ça devient une chaussure. Donc vous voyez l'idée, quoi. Alors bien sûr, si c'est possible, pourquoi ne pas transformer des bikinis en seins, évidemment. Alors le plus drôle, c'est que les chercheurs de l'université de Rio, un an exactement pile avant, avaient fait exactement l'inverse. Ils avaient fait un algorithme qui rhabillait les femmes, ils prenaient des femmes nues, leur mettaient des bikinis. Bon, comme quoi, décidément. Et bon, les développeurs estoniens, finalement, qui ne se rendaient peut-être pas compte, hein, d'une part, de la vulgarité du logiciel, mais surtout de son potentiel de nuisance en tant que générateur de revenge porn artificiel, ben, se sont dit que ça serait peut-être une bonne idée de créer Deep Nude et de le faire payer tant qu'à faire. Bon, enfin, elle a été retirée, mais elle est toujours là. Tu l'as pas eu? Bon, ben oui, parce que moi, en fait, elle est tellement facile à retrouver que moi-même, j'ai pu la télécharger. Et oui, j'ai téléchargé parce qu'il y a une version craquée qui circule, qui est extrêmement facile à trouver. Elle fonctionne bah, comme avant, en fait, sans le moins de problème. Ben oui, tu connais Tech Café, Nico, on fait du journalisme total.
Bah oui, l'investigation. Et tu te donnes à 100% et tu testes tous les produits.
Exactement. Donc j'ai essayé le machin, j'ai téléchargé des photos de filles en bikini random, hein, c'est pas le plus dur, hein, sur Internet. Donc voilà, je les ai données à manger à Deep Nude. Et franchement, j'ai été très déçu, parce que c'est assez nul. Déjà, si la fille n'est pas en bikini, bah, ça fait strictement n'importe quoi. Et même quand c'est en bikini, le résultat est parfois complètement à la masse. Voilà, les seins sont déformés, il y a des vulves qui sont placées, des endroits qui anatomiquement sont vraiment très douteux. Bref, voilà, j'ai eu aucun cas de photo propre sans artefact évident, hein, qui montre que c'est un fake grossier, ce qui est plutôt rassurant. Bon. Alors quand même, hein, dans de rares cas, avec du Photoshop derrière, en recadrant un petit peu, certaines photos pourraient, en basse résolution, passer pour des vraies. Bon, autant franchement le faire à la main, hein, parce que de base, hein, parce que bon, les fake porno qui sont légion depuis 25 ans, bah, sont souvent plus réussis que ça. Bon, pour le moment, ce logiciel n'est pas encore un danger public, je pense. Seulement, bon, ben voilà, hein, le fait qu'il ait été récupéré, décompilé, que le modèle qui fait 2 gigaoctets au passage, c'est pas si grave, hein, a été téléchargé, analysé, hein, et remis en ligne de manière parfaitement fonctionnelle, bon, bah, évidemment, ça veut dire qu'il va évoluer dans le futur et ça pourrait devenir effectivement très très inquiétant, quoi, tout ça.
Ouais, c'est fascinant et dangereux. C'est fascinant de voir ce qu'on peut faire maintenant grâce aux intelligences artificielles. On le voit, vous avez parlé on peut faire parler n'importe quelle peinture maintenant, ça c'est juste bluffant, bien ou pas bien, c'est côté vraiment très. Très, toi, quand j'étais petit, je m'étais dit je verrai jamais. C'est dans les années 2020. Bon, j'ai vieilli et on est en 2020 et c'est effectivement là. Et c'est assez bluffant. Aujourd'hui, c'est pas forcément toujours très bien, mais comme tu le dis, ça va évoluer, ça va muter. Et ce qui fait peur, c'est qu'on va se dire peut-être que dans pas loin, dans un an ou deux ans, on aura ça de fonctionnel. Donc on ne pourra plus rien croire, en fait. Aujourd'hui, quand tu vois une vidéo, tu te dis « Ouais, bon, bah, c'est une vidéo, c'est passé sur TF1, c'est vrai. » Ouais, sauf que les vidéos, dans peu de temps, ce sera plus vrai, on sera suspicieux de tout. Est-ce qu'un jour, on pourra se dire « Ouais, cette information est juste. » Est-ce qu'on pourra la vérifier? Est-ce que ce sera vérifiable, justement? Et ça, c'est assez dramatique, je trouve. C'est que on peut plus se fier aux photos, on peut plus se fier à ce qu'on lit, on peut plus se fier à ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on fait? On reste dans notre campagne et on parle entre nous. Enfin, ça, c'est assez flippant pour ça.
Oui, ben c'est effectivement cette espèce d'irréalité comme ça qui commence à baigner un petit peu le monde dans lequel on vit. Mais il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle comme ça. Il y a juste besoin de conneries réelles, hein, comme celle de certains dirigeants. Et ça marche aussi très bien, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant. Cette distanciation vis-à-vis de la vérité, c'est quelque chose de très très inquiétant. Alors du coup, je le dis évidemment tout inutile, c'est pas la peine de me contacter pour avoir le logiciel. Déjà, il est très facile à trouver de toute façon, parce que si je l'ai trouvé, c'est que... Je veux dire, j'ai pas passé 2 jours dessus, hein. J'ai vraiment essayé, j'ai réussi en quelques minutes, et voilà, c'est pour ça que je l'ai fait. Hein. Mais ne le faites pas, parce que d'une part, c'est nul, voilà, ça marche très mal. Par principe, éthiquement, c'est nul, donc ne le faites pas, et en plus, de toute façon, un package sur deux est vérolé, donc c'est à vos risques et périls. Donc je ne le distribuerai pas.
Voilà. Ouais, de toute façon, ça sert à rien.
Non, mais de toute façon, je l'ai déjà viré. Donc, on reste avec les GAN quand même, on reste globalement dans le thème, hein, avec un nouveau venu dans la grande famille des GAN, c'est Generative Adversarial Networks. Donc c'est cette fois, ça nous permet de nous ouvrir de nouveaux horizons hein, pour les illustrateurs pressés ou pour ceux qui n'ont aucun talent particulier comme moi, ben voilà, ça peut être vraiment très utile, puisque GunPaint, c'est un outil de retouche photo sémantique qui est de l'équipe de IBM, enfin Watson et du MIT. Bon, il a été présenté au SIGGRAPH de cette année, hein, et il permet, avec un gros pinceau épais, de placer des éléments comme des arbres, de l'herbe, mais aussi des portes, des fenêtres, etc., sur une photo, et la photo sera modifiée en conséquence par l'algo pour donner une autre photo qui sera comme vous le demandez. Donc par exemple, il y a une vidéo dans les notes de l'émission, il y a le lien, vous avez la vidéo où tout est expliqué bien, hein, mais bon voilà, les exemples sont assez marrants, c'est-à-dire vous avez une cuisine, vous cliquez sur « fenêtre », vous faites un carré dans le mur et il apparaît une fenêtre dans la cuisine, et cette fenêtre elle est photoréaliste aussi. Vous pouvez par exemple rajouter des arbres à côté de Notre-Dame, ou changer le style en mettant une dôme au-dessus des flèches, etc. etc. Donc c'est assez impressionnant. Évidemment, le nombre de mots, c'est-à-dire l'aspect sémantique, il n'y a pas encore beaucoup de mots, tu vois, c'est pas très très non plus développé. Et en plus, c'est pas parfait, c'est-à-dire des fois ça bave un petit peu, c'est un peu déformé, bon voilà. Mais c'est quand même déjà vraiment très impressionnant de pouvoir, rajouter des... enfin, changer complètement une image en deux coups de pinceau, c'est quand même extraordinaire. Et c'est d'autant plus incroyable que on avait vu déjà, il y a 2 ans de ça, on avait déjà vu des algorithmes qui étaient impressionnants, par exemple, qui viraient des gens sur les photos, qui viraient des gens ou des poteaux télégraphiques, uniquement en les détourant sur des photos, hein, avec des algorithmes d'intelligence artificielle, et ils étaient dans des labos, si tu veux, et l'année d'après, ils étaient dans Adobe Creative Suite, quoi, tu vois, moins de 2 ans plus tard.
Donc, moi, je l'utilise, mais même dans les applications, il y a pas mal d'applications. Enfin, moi, je suis nul en dessin. C'est fait. Je suis nul en photo. Je sais pas cadrer. Je sais pas faire. J'envie tous ceux qui font des super photos sur Instagram. Je voudrais être vous, mais bon, je ne le suis pas. Je suis désolé. Alors ça, je suis content qu'il soit arrivé. Je l'ai essayé pour voir, et c'est vrai que c'est bluffant. Hein, ça marche super bien. Et on voit que c'est encore à l'état de prototype, c'est un prototype encore, non ?
Oui, tout à fait. C'est un truc de recherche.
Ça marche bien. Donc j'ai été moins doué que toi parce que j'ai essayé de planter un arbre dans la cuisine, à l'extérieur de la cuisine, mais je l'ai planté à l'intérieur moi. Donc déjà j'ai un problème de perspective, je pense. Mais ça marche bien. C'est étonnant. Et comme tu dis, pour détourer, moi je l'ai utilisé vite fait là. J'utilise le truc d'Adobe là pour détourer une image où j'ai pris une photo, puis il y a toujours quelqu'un qui est derrière qui vient saouler sur ma photo. Et vu que j'ai pas envie de la refaire parce que je suis nul, je peux détourer juste la personne, la faire disparaître en un clic. Et c'est génial et c'est vraiment très très pratique au quotidien. Et j'imagine que tous les designers... Ah ce sera peut-être comme ça qu'ils vont faire les nouveaux iPhones.
Mais écoute, peut-être, parce que c'est vrai
tout
que...
Tout le live s'en va.
Ce qui est assez génial, c'est que n'importe qui, bientôt, disons dans les années qui viennent probablement, pourra avoir... C'est comme s'il avait une petite armée d'illustrateurs à son service, quoi, d'assistants. Tu vois, c'est comme si t'étais un illustrateur, lui, il fait son boulot, et puis il demande des trucs, globalement, rajoute-moi un arbre, enlève-moi un mec, change-moi l'ambiance de la scène. Ça, je préférais que ce soit plutôt en automne ou en hiver qu'en été. Et puis ça va se faire tout seul, au lieu qu'il y ait une armée de petits assistants qui fassent les petites mains, ça va se faire tout seul. Ça peut démultiplier la créativité, quoi. Donc c'est vraiment ça, pour l'instant, c'est vraiment cool. C'est à peu près les mêmes algos qui déshabillent les femmes aussi. Eh oui, qu'est-ce que tu veux faire ? C'est con, hein, mais c'est comme ça. Intelligence artificielle toujours. Tu sais qu'il y a la biométrie. Ça peut être plein de choses, ça peut être ça peut être les doigts, les empreintes digitales, ou ça peut être évidemment la reconnaissance faciale. Et bien il y a un nouveau truc biométrique qui arrive, c'est quoi ? C'est les battements du cœur. Parce qu'apparemment, effectivement, les battements du cœur sont très 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 caractéristiques de chaque personne. Et puis clairement, c'est quelque chose que tu peux pas camoufler, quoi. Voà, c'est très très difficile dans tous les cas, a priori, ça paraît compliqué. Et alors, quand en plus tu couples cette méthode d'identification avec un laser ultra précis qui est capable de détecter les variations de pression sur une surface à plus de 200 mètres, tu obtiens une expérience du Pentagone qui s'amuse, comme le MIT Technology Review nous le révèle, à identifier des gens à distance, pourvu qu'ils portent une chemise et qu'ils aient accès donc à leur torse par laser. En 30 secondes, ils sont capables d'identifier une personne avec 95% de précision. C'est assez incroyable, même si il faut d'abord évidemment qu'on connaisse le profil cardiaque de la personne, et qu'il ne porte pas une doudoune, parce que bon, ça ne fonctionne pas sur les parkas, évidemment.
Ça fonctionne comme les systèmes de radiologie, non? C'est assez étonnant, non? C'est un laser, c'est juste un laser.
C'est un laser qui prend ton pouls, peut-être de manière un petit peu plus détaillée que ton pouls, mais en gros, ça prend ton pouls à distance, quelque part. Et en 30 secondes, il a suffisamment d'informations sur la manière dont ton cœur bat pour t'identifier, ce qui est... Effectivement,
Doute. Enfin, moi, perso, ils prennent mon battement de mon cœur là, maintenant, et ils m'attendent 5 minutes. Là, je vais monter 3 marches et je peux te dire que mon battement de cœur, ce ne sera plus le même. Hein.
Alors, c'est vrai. D'ailleurs, c'est une bonne question de savoir si c'est au repos ou alors si les patterns sont repérables, quelle que soit la. Parce qu'en fait, il n'est pas exclu que ce soit pas. Enfin, si tu veux, quand tu cours, évidemment, ton rythme s'accélère, mais peut-être que les patterns qui détectent, eux, ne changent pas. Peut-être que c'est la manière dont ton cœur bat, c'est pas le rythme auquel ton cœur bat.
Ah ouais, c'est étonnant, intéressant. Et 200 mètres de portée, donc ouais. Bon. Il y a de quoi faire, mais bah, c'est le prochain truc pour déverrouiller les iPhones, c'est bon.
Ah, mais tu sais que, voilà, pourquoi pas, il pointe un laser sur ta poitrine, ça fait pas flippant du tout.
C'est pas énorme, ça.
Mais pourquoi pas.
Et ça marche même la nuit, du coup.
Ça marche même la nuit, c'est vrai, mais ça met quand même 30 secondes.
Contrairement au Face ID, où il nous voit pas la nuit.
Ouais, mais ça met du temps, en fait, c'est quand même assez long, c'est un peu le problème.
C'est ça.
Bon, toujours est-il que, toujours dans les innovations militaires, désormais, en Afghanistan, eh bien, les Marines vont être équipés de minuscules drones. Alors, c'est des drones FLIR, F-L-I-R, donc FLIR System, va fabriquer et donner donc, à ses soldats des Black Hornet. Ce sont des petits drones qui font 16 cm de long, qui pèsent 33 grammes, donc autant dire que tu peux quand même en avoir un, voire plusieurs dans les poches. Et ces petits drones, eh ben, écoute, ils sont vraiment très impressionnants parce qu'ils ont, ils ont une autonomie de 2 km. Ils peuvent voler pendant un peu moins d'une demi-heure. Ils sont capables de renvoyer des images à un petit moniteur qu'évidemment le soldat doit avoir sur lui. Et ils sont capables d'aller en coordonnées GPS particulières, de se poser tout seul avec ou sans GPS, de revenir tout seul. Et évidemment, ils peuvent être commandés à distance. Et tout ça, bah, évidemment, on imagine qu'avoir des yeux qui peuvent se balader comme ça et voler jusqu'à 2 km, ça peut être extrêmement utile pour des militaires. Alors évidemment, c'est pour des militaires, c'est pour des fantassins. Hein. Donc c'est vraiment... allez voir la vidéo, c'est assez impressionnant de voir ces petits machins qui ne sont pas armés, hein, c'est juste des caméras volantes. Mais évidemment, ça peut déjà avoir, ça peut changer complètement une situation de savoir combien il y a de gens derrière telle couverture, où sont les ennemis, etc. etc. Je pense que tu imagines comme moi la plus-value que ça peut représenter.
Ah ouais, c'est impressionnant. C'est vrai. Bah ça, là, aujourd'hui, c'est l'armée, mais dans peu de temps, ça va être les forces de l'ordre, j'imagine, prise d'otage. Enfin, tu peux voir à droite, à gauche, sans te faire reparer. C'est vraiment intéressant. Et le poids, moins de 50 grammes, c'est ça ?
33 grammes.
C'est impressionnant. Une demi-heure de batterie. Moi, j'en ai un drone. Je vais pas citer la marque, hein, parce que sinon, ça va leur faire du mal. Ma batterie, elle dure. Déjà, il fait au moins 200 ou 300 grammes, mon truc, même plus. Et elle tient un quart d'heure ma batterie, hein. Et puis elle fait rien, j'ai même pas de la HD, c'est une horreur. Donc moi je le veux, je sais pas combien il vaut, mais je veux celui-ci.
À mon avis, il vaut très cher. Le matos militaire, ça peut être de la qualité, mais à mon avis, ça coûte pas 2 francs.
Le prix d'un iPhone?
J'en sais rien. Honnêtement, j'ai pas vu le prix, je sais pas si le prix
non,
est cool.
Ça doit être une blinde.
Je sais pas du tout. Si jamais le prix.
Mais très intéressant par contre.
Écoute, si j'en trouve un sur eBay, je pourrais. Effectivement, c'est pas.
Tu paieras ça en Libra. Et...
Exactement, je paierai mon Black Hornet d'occasion en Libra. Ah, c'est ça le futur.
C'est ça le futur.
Écoute, puisqu'on parle de drones, peut-être qu'on peut en profiter pour clore cette section et passer à la rubrique en bref. Donc tu peux évidemment m'interrompre quand tu veux sur cette truc. Si tu as quelque chose que tu as vu passer, n'hésite pas. Non, parler de drone. Écoute, 33 grammes, tu trouves que c'est beaucoup. Tu trouves que c'est léger,
non,
c'est ça.
C'est peu.
C'est léger.
C'est léger. Bon. Il y a moins ? Non, il n'y a pas moins.
Il y a Robobi, qui est probablement le drone le plus léger du monde, puisqu'il pèse, lui, 259 mg, soit un quart de gramme.
C'est énorme. Enfin non, justement, non, c'est l'inverse d'énorme.
C'est vraiment pas énorme. Alors, qu'est-ce que c'est Robobi ? Ben, Robobi, c'est un... Donc c'est un petit drone qui est destiné à être autonome dans le futur et qui, évidemment, tu t'imagines, avec un truc aussi léger que ça, c'est, je sais pas, ça, le poids de 4 moustiques, forcément, ça peut pas emporter de batterie. Donc en fait, le but, c'était de le rendre autonome avec des panneaux solaires. Des panneaux solaires qui doivent être excessivement légers, bien entendu, pour pouvoir le porter, enfin pour pouvoir, disons, ne pas trop l'alourdir tout en lui apportant l'énergie nécessaire. Et ça, évidemment, c'est un très 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 gros problème. Alors ils ont rajouté deux pales qui a amélioré de 36% la portance du truc, et surtout ils ont rajouté des petits panneaux solaires qui envoient 120 milliwatts d'électricité. Et ces 120 milliwatts d'électricité, ils ont réussi à faire décoller le petit drone tout seul. Ça y est, il vole tout seul. Et le problème, c'est qu'il vole tout seul avec un soleil 3 fois plus fort que le soleil naturel, donc ça fonctionne pas encore. Mais voilà, c'est pour te dire qu'il y a de la recherche sur les micro-drones, que ça avance bien, et que même si les micro-drones autonomes qui ont leur propre source d'énergie ne fonctionnent pas encore à l'extérieur, on est sur le chemin, et donc il faudra attendre d'avoir des panneaux solaires plus puissants ou de faire des drones encore plus légers, mais voilà, on est sur le chemin d'avoir des petits moustiques artificiels comme ça qui nous bourdonnent un petit peu partout. Je suis sûr que tu es ravi de l'apprendre.
Ah non, mais ça va être génial, parce que moi, c'est l'été, j'allume les lumières, j'ai des moustiques. Donc si mon drone autonome, il peut s'attaquer à mes
Ce
moustiques,
serait
je signe.
génial.
Ça serait génial. T'imagines avec un petit laser qui est en train. Bon, je fabule un peu, mais ça peut être génial, j'adore.
Ouais, ou un petit laser. Ou alors, je sais pas, une petite scie. Tu sais, il fonce sur le
Ouais.
moustique et il le coupe en deux comme ça.
Ouais,
Oh,
ça
ce serait
serait. Non, mais
absolument génial.
t'imagines, et puis il y aurait des batailles de drones et de. Ouais, ça serait bien.
Ce sera absolument fabuleux. Bon, alors je suppose que c'est des trucs qui vont peut-être être utilisés par les espions avant d'être utilisés par les chasseurs de moustiques, mais bon, pour l'instant, c'est encore dans les labos. On va peut-être faire une petite section dans la section, bref, on va peut-être faire une section loose, parce que c'est la loose, et oui. Alors c'est la loose pour Boeing, déjà, puisque d'après Reuters, les Boeing 737 MAX auraient un autre problème. Un autre problème qui les ferait piquer du nez, en plus de celui dont on a déjà parlé, et ce problème, même si on n'a pas d'informations officielles, serait relatif à un microprocesseur à l'intérieur du système de vol qui poserait souci. Alors c'est la double loose, même on va dire, pour Boeing, puisque il semblerait que à l'époque du enfin, à une certaine époque, Boeing avait été un petit peu juste sur le budget, et donc il avait viré pas mal d'ingénieurs, et donc il avait utilisé des contractuels qui étaient payés au lance-pierre et qui étaient poussés à bout pour fabriquer le software, justement le logiciel du 737 Max, avec les résultats que l'on sait. Donc voilà, c'est une belle double loose pour Boeing, dont les 737 sont probablement pas encore en vol, quoi. Je pense pas qu'ils vont revoler d'ici tôt, ceux-là. Enfin, en tout cas, j'espère. En tout cas, moi, j'en prendrai pas. Voilà.
Moi non plus.
Il faudra bien vérifier ce que c'est. Le problème, c'est que moi, je me rends compte de ce que c'est une fois que je suis dedans, souvent. Je sais pas si c'est ton cas aussi, mais
Non, moi, je sais pas.
je les
Ça,
reconnais
pour
pas,
moi,
moi,
c'est
de
un avion.
l'extérieur.
Non, moi non plus. Ça a des ailes. Voilà, ça
Ouais,
vole.
c'est vrai, ils s'ensemblent tous, hein.
Moi, j'y connais rien. Je suis toujours impressionné quand ça décolle. Je suis encore plus impressionné quand c'est en l'air. Je me dis, j'espère que je vais pas tomber. J'ai toujours pas compris l'histoire de la gravité, machin, la portance. Pour moi, ça m'amène d'un point A à un point B. Ça me fait assez flipper. Bon, on me rassure tout le temps en me disant que ça va pas tomber. Bon, là, tu viens bien de me rassurer. Là, je suis ok. Je vais prendre. C'est gros, un hein, 737, j'imagine, vu le chiffre.
Ouais, c'est assez gros, mais pas
Ouais, bah
tant que
je vais
ça.
prendre
C'est
du
pas un
plus petit.
747, quoi. Je crois que c'est plutôt des avions
Ah.
moyens, hein. Non?
Moi, je vais prendre très petit alors, hein, deux trois
Ouais,
places, ça ira très
un
bien.
biplan avec des hélices.
Un biplan, un deltaplane.
Parfait. Un deltaplane, c'est bien. C'est écologique en
C'est
plus.
bien. C'est écologique. Ouais, c'est ça. T'as vu?
Bon.
Ça va moins loin.
Ouais, c'est bon. On continue notre section loose avec le champion de la semaine. Donc le champion de la semaine, c'est en fait ils sont deux. Il y en a un en particulier. Mais bon, alors il y a un duo. C'est un Taïwanais qui s'appelle Leo Hu et un Américain qui s'appelle Zhu Yang. Même. Ils vivent au sud de la Californie et eux, par contre, c'est des pros. Bon, eux, ils vendent de la drogue, si tu veux, donc en fait, ils cachent leur identité, ils passent par le dark web, je veux dire, on leur fait pas. Et d'ailleurs, donc, ils ont utilisé des pseudos, tout ça, c'est vraiment des trucs très très. Voilà, ils sont très très prudents. Ils acceptent les paiements en bitcoin, etc., etc., tu vois. Et du coup, c'est vrai que les fédéraux n'ont jamais réussi à les pincer jusqu'au jour où l'un d'entre eux a utilisé sa propre adresse pour acheter des timbres et envoyer le colis à ses clients. Et du coup, là, forcément, ça marche beaucoup moins bien. Donc voilà, ils se sont fait choper pour ça. Ne faites pas ça chez vous, hein, je veux dire. Si vous utilisez le dark web, faites attention à ne pas utiliser la poste ou Colissimo parce que ça se voit un petit peu.
Il y a une série Netflix qui parle un peu de ça, qui est sortie il y a quelques jours, How to Drug off Net ou un truc comme ça. Il y a deux jeunes qui se lancent à vendre de la drogue sur le dark web. C'est un peu l'histoire là. Et ils postent eux-mêmes, ils vont acheter leur timbre. J'ai pas vu la fin encore de la série, mais ça doit être un peu dans l'esprit là.
Ouais, probablement, mais c'est toujours rigolo, écoute, quand ça arrive, ce genre de truc. J'avais parlé du display, la dernière fois, donc avec le MWC Shanghai, là, j'avais parlé du Oppo qui avait sa caméra sous l'écran, sa caméra selfie sous l'écran, pour pas qu'il y ait de notch, voilà, qu'il y ait pas de truc qui dépasse, pas de zigouigoui qui sort, rien du tout. Et donc, je n'avais parlé à l'époque, on avait vu quelques photos de loin, et bon, je trouvais ça plutôt intéressant, même si, voilà, on pourra en penser ce qu'on voudra. Cela dit, quand tu vois des photos un petit peu plus proches et un petit peu plus agrandies de la zone en particulier où il y a la caméra sur l'Oppo, tu te rends compte qu'en réalité, la Redesign Pixel Structure, comme ils disent, ben, il est vraiment méchamment redesigné, la structure des pixels, hein, puisqu'en gros, pour faire en sorte que la lumière passe à travers l'écran, ben, il faut en enlever, quoi, globalement, des sous-pixels. Il n'y a pas trop de choix, tu vois. Et donc, tu te retrouves avec une espèce du pire des deux mondes, c'est-à-dire que tu as une zone là où il y a la caméra selfie, où l'image est dégueulasse, enfin, où l'écran est voilà, dégradé, quoi. Sauf qu'il est donc il est dégradé pour être plus transparent, sauf qu'il n'est pas assez transparent et que du coup, tu as une caméra selfie qui doit être beaucoup plus grosse et beaucoup plus sensible avec des traitements beaucoup plus lourds pour compenser le fait qu'elle reçoit très très peu de lumière. Donc là, est-ce qu'on n'est pas arrivé aux limites du concept, je te le demande, mon pauvre Nico.
Bah écoute, encoche ou pas, petit aileron qui sort ou pas, enfin là, ouais, là on voit les limites d'un peu tout ça, et peut-être que la problématique c'est de vouloir tous se prendre en photo soi-même. À un moment, essayons de regarder les autres, essayons de regarder la
Oh, que c'est
nature, tout
beau.
ça, et arrêtons ce côté narcissique. Tiens, je suis beau, c'est ce que je te disais, les mecs qui sont sur Insta, qui se font en photo avec leur glace qui est magnifique, machin, arrêtez. La preuve, ça sert à rien, personne n'arrive à vous faire des belles
Mais
caméras
bien
sous
sûr.
l'écran, tout ça. Abandonnez ça, faites des vraies photos, vivez votre vie avec vos yeux et arrêtez de tout screen photographier en permanence. De toute façon, c'est la fin des selfies.
Mais je me permets cette magnifique citation. S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder tous deux dans la même direction.
Ah, c'est beau. C'est de qui?
Je crois que c'est de Saint-Exupéry, mais bon, j'espère ne pas dire
Ah,
de
c'est
conneries.
magnifique. Je vais la noter.
Donc, on parle de téléphone, là, on peut aussi parler du Galaxy Fold, parce qu'il y a, chaque semaine, il y a sa petite news Galaxy Fold. Et donc, ça y est, Samsung dit que le Galaxy Fold, c'est bon, il est prêt, il va sortir, c'est bon. Voilà, ne vous inquiétez pas. On ne sait pas quand, parce qu'ils ne vont pas jusqu'à donner une date. Par contre, ils ont dit que ça y est, ils avaient réparé les problèmes qui avaient été repérés par les journalistes. En particulier, le film de l'écran, donc, tu sais, qu'il y avait cette espèce, je sais pas si tu as vu, il y avait ce film sur l'écran que, évidemment, ces espèces de grosses brutes d'Américains ont gratté avec les ongles et ont arraché, donc ils ont arraché l'écran avec. Et puis, il y avait eu aussi ce petit problème de petite interstice, ce problème de charnière qui était un petit peu, voilà, enfin, qui faisait une espèce de creux au milieu et qui était un petit peu fragile. Bon, ces deux trucs ont été plus ou moins. Alors, d'une part, le film, lui, il est plus accessible aux doigts, et puis la charnière bombe un petit peu elle devient un petit peu convexe, si tu veux, donc elle va un petit peu vers le haut, ce qui permet d'avoir un écran plus plat et d'être un petit peu plus serré, donc apparemment ça marche mieux. Bon. Donc globalement, ça y est, le Galaxy Fold est prêt. Est-ce que tu vas casser ton PEL?
Non,
Oh zut!
c'est pas voilà, c'est clair, non, pas pour ça, c'est trop gros. Moi, j'attends pas un pliable comme ça. Je vous en avais déjà parlé. Moi, j'attends un StarTAC pliable pour avoir un écran type iPhone 6,5 pouces ou n'importe quel autre produit. Mais je cherche pas une phablette. J'ai mon ordi, je suis très bien. Moi, il me faut un clavier. Je suis peut-être trop vieux, mais il faut un clavier physique pour taper des textes. Si ça doit être long, je peux pas. Donc, moi, je veux un téléphone petit qui rentre dans ma poche. Et quand je l'ouvre, il a la taille d'un smartphone actuel, ça me suffira largement. Et surtout pas à 2000, je sais plus combien il vaut, mais surtout pas à 2000 euros. Non, je suis assez fan de Samsung depuis des années, mais celui-ci, ce ne sera pas pour moi tout de suite.
Non, mais écoute, je comprends. 2000 $, c'est quand même pas rien, hein, pour avoir un. Je préfère avoir un PC de gamer pour ce prix-là qu'un téléphone pliant, je le reconnais moi aussi. Alors, dans la série de la loose, on va conclure à cette loose magnifique avec Microsoft. Oui, la loose cette fois, c'est Microsoft, ou plutôt c'est les pauvres gens qui ont, se sont dit que ce serait une bonne idée de lire des livres sur leur Surface et qui ont acheté des bouquins sur Microsoft, enfin sur le Windows Store. Il faut savoir que Microsoft, pardon, ça c'est pas dit hein, qu'ils essayent de vendre des livres, puisqu'ils avaient un format, c'était Microsoft Reader, je crois, le format Lite, que j'ai moi-même utilisé il y a de cela, je sais pas, au moins 15 ans, sur des petits PDA. Et donc ce format, si tu veux, c'est un format qui pouvait avoir des DRM. Et en fait, bien avant le Kindle, eh bien, Microsoft avait distribué des e-books et tu pouvais lire des e-books sur des machines Windows Mobile. Alors, le truc, c'est qu'ils se sont dit, bah, ils ont retenté le coup avec les surfaces, ça n'a pas marché. Et donc, du coup, voilà, le truc part offline, il n'y a plus de magasin ni rien. Ce qui veut dire que tous les livres que vous avez achetés sur cette librairie eh ben, vont disparaître. Tout simplement, vous ne pourrez plus les lire, puisque comme pour toutes les librairies, comme ça en ligne, hein, je le rappelle, enfin, il faut toujours le rappeler, vous ne possédez pas les livres que vous achetez, ce sont juste des licences qui peuvent expirer. Et donc, du jour au lendemain, ben voilà, plus de bibliothèque. C'est quand même triste quand les livres même commencent à ne plus marcher.
Ouais, je pense beaucoup de gens ne le savent pas, hein, déjà qui n'achètent pas les livres, hein, donc tu fais bien de le rappeler. Je pense que c'est de la faute des constructeurs, enfin des sociétés. Je pense qu'ils devraient changer de bouton à acheter le livre. Tu vois, ils devraient mettre partager le livre ou louer le livre ou un truc comme ça, tu vois, qui change le nom, qu'on essaye de comprendre que en fait, si la plateforme marche plus, bah, ça marche plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est très trompeur, même si dans leurs conditions générales, ils te disent que ouais, il y a des DRM, donc on se donne le droit de, si ça marche plus, d'arrêter, vous n'avez pas le droit de l'utiliser ailleurs. Bah, dans ce cas-là, faudrait changer juste l'intitulé du bouton ou de la manière de trouver un autre terme. Trouver un autre terme, c'est pas moi de faire ça, et ils sont des gens qui sont super bien payés, pour éviter de tromper les gens. Ça évitera des problèmes à l'avenir.
Ouais, mais je suis assez d'accord. C'est vrai qu'il pourrait dire, je sais pas, rajouter à la bibliothèque ou un truc comme ça, je sais pas. Mais effectivement, tu as raison. Acheter, c'est peut-être un petit peu trompeur. On continue un petit peu dans la loose, mais passe un petit peu un truc jeu vidéo, mais on continue un petit peu dans la loose, puisque on a énormément parlé de xCloud, on a énormément parlé de Stadia dernièrement. Et puis, il faut quand même se poser la question de savoir, mais au fait, les joueurs, est-ce que ça les intéresse? Eh bien, il y a une étude qui a été faite, alors c'est une étude un petit peu peut-être vite faite, mais quand même, elle a été faite par GameIndustry.biz, et par les cabinets Ipsos Mori aussi d'ailleurs, les résultats sont rapportés par GameIndustry.biz, autant pour moi. Et bon, ça concerne des joueurs européens, et le constat est assez net, hein, c'est globalement xCloud, Stadia, eh bien écoute, Balek, voilà. On s'en fout, 70% des joueurs des pays d'Europe qui ont été recensés ne manifestent qu'un intérêt très relatif pour les services de jeux en streaming, 31% préfèrent l'obtention d'un jeu en boîte, carrément, je veux dire, voilà. Et donc c'est vrai que ce forcing réalisé par un petit peu tout le monde risque de tomber un petit peu à l'eau, puisqu'il y a voilà quoi, c'est 70% n'auraient indiqué ainsi que faire de ces nouveaux services. Il n'y a que 15% des joueurs interrogés qui seraient partants pour souscrire à ces plateformes s'il y avait un large catalogue de titres, et il y a seulement 3% qui sont vraiment très 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 intéressés. Bon, écoute, les Britanniques sont les plus curieux, les Allemands sont les moins curieux, les Français sont un petit peu au milieu, mais bon, tout ce qu'on peut dire, c'est que ça ne soulève pas un enthousiasme incroyable, ces services-là. On avait peut-être déjà parlé de Stadia, tu m'as peut-être déjà dit que toi, ça t'intéressait quand même un petit peu, mais bon, sans excès non plus. Tu n'as peut-être pas trop le temps de jouer, ça aussi.
J'ai pas beaucoup de temps de jouer, mais c'est justement pour ça que Stadia m'intéresse, en fait, parce que j'ai pas beaucoup le temps de jouer, c'est paradoxal, parce que j'ai pas le temps de jouer, parce que j'ai des consoles de jeu. Elles sont vieilles maintenant, j'ai pas les toutes dernières, j'ai les versions juste avant maintenant, mais le problème c'est quand je les allume, eh ben, y a déjà une mise à jour qui est à faire, mais de 10 ans, donc ça, c'est ça qui me plaît pas dans le jeu. Et moi je serais curieux, dans ton sondage, je sais pas s'ils le notent, et ils ont interrogé déjà combien de personnes et quel type de personnalité de personnes, quel type de gamer, est-ce que c'est des gamers PC, console ou mobile?
Je pense qu'il y a de tout, justement, parce que sinon, d'ailleurs ils disent qu'ils veulent des gens boîte. Donc c'est forcément pas des gamers mobiles, hein. C'est plutôt des gamers un petit peu tous horizons, mais probablement plus console.
C'est ça, et du coup moi je me dis qu'on n'a peut-être pas interrogé les bonnes personnes. Je pense que ces systèmes de cloud, on peut pas s'attaquer aux gamers. Tu vas pas dire au mec qui achète un PC à 3-4 000 balles pour jouer, Bah tiens, je te propose un truc qui est moins bien, parce que clairement, pour le moment, ça va être moins bien à cause de la latence, à cause de toutes les difficultés techniques liées aux connexions Internet qui sont disparates en fonction des pays et des régions même. Donc celui-ci, tu peux pas l'attaquer. Celui de la console, bah déjà, il va pas sur PC, hein, parce que c'est les ennemis, les frères ennemis, tu vois, console, PC, c'est comme Xbox et PlayStation, ils s'aiment pas, hein, c'est pas possible. Et les joueurs de console, bah eux, ils aiment jouer parce que c'est une console. Et ils s'attachent à une marque. Hein. Et ceux qui sont sur Microsoft, ils vont pas aller sur un autre produit. Ils sont à fond Microsoft. Alors je me trompe peut-être, ça a peut-être changé depuis toutes ces années où je ne joue plus à ces consoles, mais j'ai quand même l'impression que ça reste un peu dans cet esprit-là, en tout cas autour de moi. Et aujourd'hui, on voit que l'industrie du jeu vidéo se déporte énormément sur les smartphones. Pour te donner un exemple, dans mes oncles et tantes, j'en ai beaucoup, mes parents ont beaucoup de frères et sœurs, et aucun de son joueur console ni PC, et pourtant ils jouent sur des smartphones. Alors des jeux débiles, hein, clairement, hein, ça va être du Candy Crush ou des choses comme ça, il n'y a rien de très... Par contre, ils jouent. Et ces gens-là, ils n'ont pas été interrogés, et je suis persuadé qu'ils seraient capables de jouer à quelque chose sur leur smartphone, donc Stadia par exemple, où ils ne demandent pas de téléchargement, donc pas d'investissement supplémentaire, donc il n'y a pas de frein à aller sur ce service-là.
Bah oui, si, il y a des frais, hein. Il faut payer le service Stadia, puis il faut acheter les jeux aussi normalement, hein. C'est pas
oui,
du
oui,
tout,
je suis d'accord, mais le service Stadia, tu n'es pas obligé de le payer, tu as la version gratuite qui fonctionnera très bien, tu as la version payante à 10 balles, à 9,99, mais tu as la version gratuite qui te donne accès aux jeux, il faut les payer, c'est tout, mais en même temps, quand tu es sur une console, tu les payes aussi, et ainsi de suite. Donc le seul frein, ça va être payer le jeu, mais aujourd'hui, quand tu es joueur de console, il faut déjà que tu payes la console et ensuite le jeu. Donc en fait, ils ont juste enlevé le frein de la console qui coûte X euros, je ne sais pas combien coûte une console, 300-400 euros. Ça, tu ne l'as plus. Donc tu n'as plus ce frein à te dire, ah ouais, mais il faut que je change de console, il faut que j'en achète une nouvelle parce que l'autre, elle est pas, les jeux ne sont pas rétroactifs ou je ne sais pas quoi. Et c'est là où je trouve intéressant le système de sans console ou de sans matériel fixe de qualité où tu n'es pas obligé de le changer tous les ans ou si tu es un vrai gamer, tu le changes tous les ans. Mais pour les autres, t'es pas obligé. Donc je pense que ceux qui sont sur jeux vidéo, je me trompe peut-être, hein, c'est que mon avis, hein, je ne suis pas référence dans ce sujet, mais je pense que ceux qui sont capables de jouer sur jeux vidéo plusieurs heures, parce que maintenant ils jouent plusieurs heures, hein, peuvent être intéressés par ce type de service. Après, à voir, hein, seul l'avenir nous le dira, mais moi je suis intéressé parce que je suis maintenant plutôt joueur smartphone sur des conneries en plus des jeux qui me font perdre mon temps et mais je suis intéressé d'avoir des gens un peu plus sympathiques comme on a vu certains jeux qui
oui,
sont sortis
qui sont donc toi en fait c'est plutôt l'immédiateté de Stadia qui te séduit puisque c'est ne pas avoir à installer de matériel, à installer de logiciels ou de faire des mises à jour, tout ça te permet, tu vois, voilà, tu vois, c'est parce que c'est ça la promesse aussi, hein. Tu vas sur YouTube,
ça,
tu vois un jeu être joué, tu appuies sur un bouton et tu joues tout de suite, voilà, ça te séduit. Par contre,
clairement, clairement. Ouais, j'ai envie, je regarde mon streamer, j'ai envie de jouer avec lui ou avec la même chose que lui. Aujourd'hui, bah, c'est compliqué. Il faut que je télécharge Steam parce que voilà, ou faut que j'aille sur la console. Et là, je vais cliquer, je vais jouer et c'est tout quoi. Je me pose même pas la question. Et le frein des 69 euros, enfin, je sais pas combien coûtera le jeu puisqu'ils disent que ce sera finalement le même prix sur Stadia. Alors là, je ne parle que Stadia parce que je me suis intéressé beaucoup à Stadia parce que Google. Visiblement, les jeux seront au même tarif que sur une console classique, donc il y a pas vraiment de différence à part le prix de console de départ. Ils seront accessibles toujours que tu aies un abonnement payant ou pas sur Stadia, hein, puisque la version gratuite te donnera toujours accès à tes jeux en permanence. Et c'est ça qui est intéressant. Le frein, c'est les 69 euros du jeu, mais vu que Google garde tes cartes bancaires maintenant, tu n'auras plus qu'à cliquer sur acheter façon Amazon, tu vois. Tu n'auras
oui,
même plus à saisir ta carte bancaire,
oui,
c'est pas
oui,
cool ça.
Oui, oui, sauf que il faudra voir sur quel. Je sais pas comment tu achètes le jeu, c'est-à-dire admettons que tu veuilles jouer, parce que bon, soyons clairs, si tu n'as la version gratuite, tu ne pourras pas jouer dans des conditions idéales à ton jeu, même si tu le possèdes
toujours.
T'es
pas en 4K, c'est tout.
Oui, mais enfin, je veux dire, dans les années qui viennent, ça va devenir la norme. Tu achètes un jeu, tu joues en 4K sur ta télé, bon, c'est la norme. Donc ça veut dire que si sur Stadia, il faut payer pour avoir la norme, c'est virtuellement que tu peux pas vraiment te passer d'un abonnement Stadia, tu vois, si tu es un joueur sérieux.
Je suis d'accord, mais là, ils la sortent en 2019, qui dit qu'en 2020, elle n'aura pas évolué.
Écoute, on verra, effectivement, comme tu dis, pour l'instant, c'est pas déployé, la version gratuite, de façon, ne sera disponible qu'en 2020. Faudra voir aussi, donc, Tu as fait référence à une citation voilà, d'un des responsables de Stadia qui disait, quand on lui demandait combien vont coûter les jeux, il répondait, je ne vois pas pourquoi ça serait moins cher. Effectivement, je ne vois pas non plus pourquoi ça serait moins cher. Enfin, si, j'ai une petite idée, mais bon, c'est pas, on va dire que...
C'est pas, okay. pas la même que lui, apparemment.
Voilà, c'est pas la même que lui, manifestement. Bon, bah écoute, ok. Toujours est-il que... Moi, je verrais Stadia comme quelque chose de, comme une sorte de service d'appoint. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, parce que le problème, et je pense que c'est ça aussi qui arrête un petit peu les joueurs qu'on a interrogés, c'est que tu es tributaire de ta connexion Internet. Donc, si tu as une connexion qui est bien, bon ben voilà, ton jeu sera bien, mais si jamais elle baisse, enfin, si la qualité à l'extérieur baisse, c'est-à-dire si ta connexion est moins importante parce qu'il y a beaucoup trop de monde sur le réseau à l'extérieur, ben, ça va baisser. S'il y a d'autres gens à l'intérieur de chez toi aussi qui utilisent le réseau de manière intense, ben, ça va baisser ou ça pourrait baisser aussi. Et tout ça, c'est des choses que les joueurs, ils aiment pas trop, quoi, tu vois. Je veux dire, tu joues, tu veux pas que d'un coup, tu passes à 30 FPS ou que d'un coup, tu sois en 720p juste parce qu'il y a ta femme qui regarde Netflix. Moi, ça m'emmerderait, honnêtement.
Non, mais je suis d'accord, hein, mais on a la chance d'habiter en France, pour, enfin, pas tous les éditeurs, je sais.
Justement, c'est pire ailleurs, je pense. Hein.
Ben, c'est pire ailleurs, voilà, c'est ce que disait du genre que tu cites Phil Harrison, qui expliquait les jeux. Il expliquait qu'effectivement, il n'avait pas peur pour la France que ça allait marcher. En plus, en France, on a un plan de bataille énorme pour la fibre optique partout. Moi, dans ma région, moi, j'habite un tout petit patelin qui est perdu au milieu de rien. J'ai une montagne à gauche, et puis des forêts, et puis un lac. Voilà, j'ai rien d'autre autour de chez moi. Par contre, la fibre optique arrive à... Elle n'est pas encore arrivée chez moi, mais elle arrive dans le patelin d'à côté. Ils sont 80 habitants. Donc la fibre optique arrive partout et on parle de 5G, elle va arriver bon, un peu plus tard, mais on a des moyens techniques et les opérateurs ont une cadence de déploiement qui est assez exceptionnelle. Ils ont des obligations en plus. A priori, il faudrait qu'en 2024, tout le monde ait la fibre optique partout en France. Bon, j'imagine que ce ne sera pas possible, mais on est dans des conditions plutôt... En France, je dis bien, hein, encore une fois, on est dans des conditions plutôt optimales pour y jouer. Après, je conçois, j'entends ce que tu dis, mais je ne suis pas un gamer, donc moi, je suis sur smartphone, c'est du ponctuel, donc Stadia, ça me correspond bien, et je suis peut-être qu'un type de personnage particulier, mais ce que je vois dans mon entourage, il y a quand même beaucoup qui seraient tentés par l'expérience. Après, à voir si ça marche vraiment bien ou pas, hein, on saura ça bientôt, puisque moi, je fais partie de ceux qui ont acheté la manette.
Ah, magnifique. Eh bien, que tu pourras revenir nous en parler, ça sera vraiment très intéressant en tout cas. Bon, on va peut-être conclure cette rubrique en bref avec deux petites news un petit peu techniques, un petit peu technologiques, un petit peu futuristes. Alors, une première qui n'est pas très futuriste, mais qui montre qu'Intel peut être fair-play, en tout cas en interne, puisque on sait qu'AMD est donc revenu dans le game, hein, avec Zen, puis Zen 2, c'est Ryzen 3000, donc qui tiennent la dragée haute très largement à Intel, et Intel l'a reconnu, en fait, elle l'a reconnu dans des publications internes, donc à destination des employés d'Intel. Il est très élogieux à l'égard d'AMD, puisqu'il reconnaît que ses processeurs le battent carrément en multi-thread, et qu'ils sont de peu les vainqueurs en mono-thread, ce qui est quand même vraiment bon, voilà, fair play de leur part. Et bon, voilà, ils disent que AMD est une menace renouvelée, ou même vraiment résurgente, donc ils sont complètement conscients que, ben voilà, il faut se bouger, ce qui est plutôt intéressant, ce qui est surtout très intéressant pour nous consommateurs, puisque ça y est, la guerre est repartie, et donc qui sait qu'il va avoir de beaux processeurs toujours plus puissants et moins chers, ben c'est nous, et on est très contents. Et alors justement, des beaux processeurs plus puissants, moins chers, et des ordinateurs encore plus incroyables, peut-être que... Et on en aura dans un futur qui est pas si lointain que ça, parce qu'il y a une sorte de Saint Graal, tu sais, qu'on recherche en électronique, c'est la mémoire parfaite. Parce que tu sais que la mémoire, elle a un gros souci, hein, la mémoire qu'on utilise aujourd'hui, enfin les mémoires qu'on utilise aujourd'hui ont un très très gros souci, c'est parce qu'on utilise plein, justement, des types de mémoire, des technologies de mémoire différentes, et qu'il y a un truc, c'est que au plus elles sont rapides, au plus elles sont chères, et au plus elles sont grosses, au plus elles sont lentes, et au moins elles sont chères. Donc il y a un gros souci, forcément, c'est que ben, voilà, il y a des mémoires qui sont très très rapides, mais très très chères, et qui en général, les mémoires très rapides en plus, sont volatiles. C'est-à-dire que dès que tu coupes le courant, c'est parti, au revoir, il n'y a plus personne. Ça, c'est un gros problème. Alors du coup, ce qui serait génial, c'est d'avoir de la RAM qui soit extrêmement rapide, en plus pas très chère, et qui puisse rester quand tu l'éteins. Alors ça, ben, il faut inventer de nouvelles cellules mémoire. Écoute, je suis assez étonné, mais il y a l'université de Lancaster qui a un laboratoire qui a donc designé une nouvelle cellule mémoire qui est basée sur, alors qui est pas basée sur du silicium, mais qui est basée sur des semi-conducteurs 3,5, donc qui sont dans une autre bande. Alors, ce sont des noix couchées d'or. Et donc, ils ont donc une porte, enfin un transistor qui est. Ils ont designé un transistor avec donc les trois éléments, hein, la source, le drain, la porte, et elle est de manière, elle est sandwichée avec plusieurs couches de micro, trucs là, hein, de micro, donc plusieurs couches de donc bon, alors plusieurs couches de trucs, bon voilà. En tout cas,
je peux pas t'aider, je suis désolé, j'y comprends rien.
Non, mais en fait, le nom m'échappe des composants.
Mais le truc, ça passe bien, hein, je pense.
Oui, truc, je pense que ça passe très bien. Et donc globalement, ce qui est intéressant, c'est que ça consommerait énormément moins d'énergie et ça serait non volatile. Alors le truc, c'est que du coup, cette espèce de petite porte, elle pourrait être utilisée pour fabriquer de la RAM qui utiliserait 100 fois moins d'énergie que la DRAM. Et du coup, ça serait fabuleux parce que il faut savoir que si tu as des cellules de DRAM non volatiles qui utilisent très très peu d'énergie, en fait les ordinateurs n'ont pas besoin de fonctionner tout le temps. C'est comme s'ils s'éteignaient à chaque fois qu'ils ne font rien. Donc par exemple, entre deux frappes clavier, ben, ils pourraient se mettre en veille tout simplement, parce que pour eux ça dure une éternité, l'intervalle entre deux frappes clavier. Et évidemment, la quantité d'énergie consommée par les RAM est monstrueuse, ce qui veut dire que tu pourrais diviser, tu pourrais en tout cas enlever un bon pourcentage de l'énergie rien qu'en changeant les modules de RAM, quoi. Donc c'est un marché de 200 milliards de dollars, hein, rien de moins, qui pourrait être éventuellement, on va dire, révolutionné par cette trouvaille. Donc voilà, si dans le futur tout est révolutionné grâce à ce truc là vous pourrez dire que vous l'avez entendu d'abord chez Tech Café. Allez, on conclut cette rubrique en bref et on passe au bonus. Nico, est-ce que tu as un bonus à nous proposer?
Alors ouais, j'en ai un, j'ai eu peur que vous l'ayez déjà abordé auparavant. C'est une série coup de cœur que je regarde assidûment et que je regarde d'une traite la plupart du temps. S'appelle Calls. A priori, tu n'en as pas entendu parler, toi.
Il ne me semble pas, non.
Alors, je te fais le pitch vite fait. C'est une série télévisuelle, mais qu'on n'écoute, qu'on ne regarde pas. Ça va très bien avec le podcast,
tu veux
du
dire
coup.
Qu'il n'y a pas d'image ?
Il n'y a pas d'image.
Ah, ok.
Ouais, mais c'est pas de la radio. Ni du podcast. Alors, il n'y a pas d'image, mais il y a quand même une image. En gros, tu as un fond noir sur ton écran, avec, quand il y a un personnage qui parle, il y a un petit carré qui montre, un petit carré qui s'allume avec le prénom du personnage, et on t'écrit, on te met en texte ce qu'il est en train de dire, parce que des fois, c'est pas très audible. On travaille vraiment sur l'ambiance sonore dans cette série, qui est, pour moi, très palpitante, qui t'amène dans un univers que je n'ai jamais vu, et c'est vraiment...
Forcément,
très
il y a
sympa.
Pas d'image.
Mais si, alors il y en a pas, mais il y en a quand même, parce que tu te surprends à regarder ces petits pixels qui clignotent sur ton écran en fonction des gens qui parlent. Donc tu as leur battement de cœur pour certains, tu vois le pixel qui s'allume, qui s'éteint tout doucement. On parlait de battement de cœur il n'y a pas si longtemps dans le podcast. Tu vas entendre des bruits en arrière et le fond noir, en fait, il n'est pas vraiment noir. C'est un espèce, tu vois quelque chose bouger comme un. C'est flou, tu sais pas ce que c'est pas une image, c'est un décor. En fait, t'imagines en tout cas. Et ça laisse libre cours à ton imagination. C'est un peu comme si tu lisais un livre. Tu imagines ce qui se passe. Là, on te donne un petit peu de piste, sans trop t'en dire. Et c'est des courtes séries, hein. C'est 10 minutes, un quart d'heure à tout casser. Et ça te met dans une ambiance sonore qui est juste exceptionnelle. Et tu te surprends à regarder cet écran qui clignote. Et t'as peur pour les gens. Enfin, en tout cas, moi, j'ai ressenti ça. J'ai eu la trouille de ma vie. Non, peut-être pas autant quand même, parce que personne ne va la regarder. Non, où tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va mourir? Qui va l'attaquer? Et souvent, ça te laisse sur ta fin. La fin de l'épisode te laisse imaginer la fin. Et c'est ça que moi j'adore aussi, c'est que tu peux vraiment te dire c'était ça, c'est ça. Et ça ouvre des discussions. Alors avec mes collègues, je leur ai fait découvrir il y a quelques mois. Et à chaque fois, à la fin, ils me font mais c'est pas fini. Si, c'est fini, je vais t'expliquer ce que moi j'ai compris. Et du coup, ça ouvre une discussion autour de la machine à café qui est assez intéressante. Je vous invite vraiment à le regarder. Là, on est sur la deuxième saison. C'est diffusé par Canal+. Vous les trouverez sur YouTube, hein, Calls, sans aucun problème, je pense. Le premier épisode de la première saison, t'es immergé dans l'eau, ils découvrent une civilisation souterraine. Enfin, je vous laisse essayer d'écouter et de regarder quand même l'écran, et vous allez voir, c'est palpitant comme série, et ça vaut le détour. Ça aurait pu être un podcast, mais c'est quand même mieux avec sans l'image. Je sais pas comment dire, je sais pas comment l'expliquer, c'est un ovni télévisuel, mais ça vaut le détour.
Ouais, écoute, ça a l'air intéressant, effectivement, puisque c'est sans image, mais pas tout à fait. Donc, c'est un petit peu à cheval.
Compliqué à expliquer.
Intéressant, effectivement.
Mais ouais.
Ben écoute, moi, en bonus, je vais recommander un autre podcast. Hein. Alors, c'est celui de Clara Kane, une avocate qui anime Besoin de rien, envie de droit. J'en avais entendu parler là, dans l'apéro du Capitaine, il y a un moment déjà de ça, mais j'avais pas pu, enfin, j'ai pas eu le temps de m'y intéresser avant. Et il nous a été re-recommandé par Panko, un auditeur, dans les commentaires de Tech Café, où vous pouvez d'ailleurs venir pour nous dire tout le bien que vous pensez de nous. Et c'est un podcast qui essaye de rendre le droit digeste, et c'est pas toujours facile. Donc ça aborde différents aspects, hein. Peut-on porter un Bermuda au bureau? Peut-on manger son chat? Ou bien à qui appartient la musique? Et oui, je fais allusion à une petite interrogation qu'on avait eue dans le podcast il y a de cela quelques semaines. C'est un podcast binge audio, donc je vous recommande. Bon, écoute, en ce qui nous concerne, je crois que tout ça va conclure cet épisode. Merci beaucoup, Nico, de m'avoir accompagné, et où est-ce qu'on peut te rencontrer sur Internet?
Bon, on peut me retrouver sur le blog mychromebook.fr, on parle des Chromebooks, de Chrome OS, de Google, enfin bref, et de Stadia, en l'occurrence maintenant. Et puis on peut me retrouver sur Nico Chromebook sur Twitter, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur l'univers de Google, des smartphones qui tournent autour d'Android et compagnie, on est heureux de vous y répondre, on est plusieurs à répondre aux questions, on est maintenant 3 ou 4 à vous aider au quotidien, donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour, un petit coucou, on est toujours heureux de voir des nouvelles têtes.
Mais tu participes au CKB Show, me semble-t-il, non aussi?
Ah oui, le CKB Show. Ah mais oui, mais j'oublie tout le temps. Mais pour moi, c'est tellement un loisir. Je m'amuse en faisant ça avec mon compère Thomas. Le CKB Show, bah, le podcast référence Chrome OS, Chromebook francophone, hein, parce qu'il n'y en avait pas. Alors, il fallait en faire un. Puis les podcasts, bah, depuis que j'ai écouté Tech Café, bah, je ne pouvais pas faire autrement que d'en faire un. C'est tellement génial, le podcast. Et partager sa passion comme ça, c'est encore mieux. Donc, ouais, le CKB Show, bah, vous nous retrouvez à peu près partout, sur tous les lecteurs de podcasts. Pareil, si vous voulez échanger avec nous, vous poser vos questions, on essaye de vous y répondre à travers le podcast de CKB Show, qui est un mensuel pour le moment. Peut-être qu'un jour on fera plus. Visiblement, ça plaît, donc on continue. Et je remercie tous ceux qui nous disent merci.
Mais oui, mais c'est très très bien, effectivement, tu as raison de faire un podcast, c'est très très bien le podcast. Et quant à moi d'ailleurs, bien écoutez, je vous dis à bientôt, à très bientôt, dans un nouvel épisode de Tech Café. Je vous dis à ciao.